Nedjé Radio, bonsoir, bienvenue à tous dans cette 34e émission de Planète G. Nous nous retrouvons comme chaque mercredi en direct de nos studios de Paris. Mais cette semaine, c'est une émission spéciale, très spéciale, puisque nous allons avoir la chance, j'ai envie de dire, j'hésite sur ce mot, mais bon, on va dire la chance de recevoir l'équipe entière, oui, l'équipe entière, je dis bien, de Game Service. Et oui, c'est ces gens qui travaillent chaque année pour divers événements, dont l'un des plus connus, la Coupe du Monde des Jeux Vidéo. Et durant ces deux heures, eh bien, nous n'aurons pas l'actualité habituelle de la semaine. Nous aurons une émission consacrée à Game Service et à la Coupe du Monde des Jeux Vidéo. Attention, durant ces deux heures, nous allons vous révéler des informations exclusives, et oui, en exclusivité mondiale. Nous aurons les prize money, nous aurons les disciplines officielles, nous aurons plein d'informations. À mes côtés, dans cette émission, comme à son habitude, avec sa casquette, c'est Thomas Mordi.
Bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Ça va.
Ça va bien?
Ça va.
Tout se passe bien?
Ouais, ça va, ça va, ça va.
À ma droite, bah oui, il est là finalement, on l'attendait pas, mais il est toujours là, c'est Raphaël.
Salut.
Comment ça va, Raphaël?
Ça va bien, ouais.
Oh.
Pas de news e-sport cette semaine.
Non, c'est dommage.
Oh, c'est ballot.
Mais il y a quand même de l'actualité, il y a du gros. Bon. On n'a pas encore tous nos invités, puis on a aussi Rémi Porco qui nous rejoindra à 20h. On a quand même une bonne partie, on a... Je vais commencer à la toute gauche. On a le monsieur chef de projet, codeur, administrateur de tournoi et surtout cheveux longs de Game Service. C'est monsieur Olivier Zarkov, Paradis. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va, ça va.
Très bien. Motivé, chaud?
Ouais, un peu.
Ok. On ne sent pas ta voix là, t'es pas très dynamique là.
Ça va arriver, ça va arriver.
Ok, ça va venir. On va dire que tu vas monter, c'est comme un diesel, faut que ça chauffe. À ta droite, enfin à ta gauche, Olivier, à ma droite, c'est le monsieur réseau de Game Service. Alors lui, c'est les switches, les routeurs, les câbles. Bon, des fois, il oublie un petit peu de différencier le plink, mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas. C'est monsieur Aurélien Bjorn Rougemont. Bonjour Aurélien.
Salut, salut.
Comment ça va?
Bah, ma foi, plutôt bien, écoute.
Bien devant la bouche, le micro, la sucette. Ah, alors, en fait, tu tiens ton micro comme un présentateur télé.
Voilà,
c'est pas comme ça.
Donc,
c'est vraiment
en fait.
dans la longueur. Regarde.
Dans le nez.
Lève. Voilà, oui!
Voilà, oui!
Tu viens d'apprendre à tenir un micro.
C'est ça.
Voilà.
Très bien, Aurélien, en fait.
Ça fait un peu Formule 1, t'as vu?
Bon. À ta gauche, eh bien, c'est Mathieu.
L'homme mystère.
Matt Dallon qui nous rejoindra un peu plus tard. On l'excuse, hein, il est en rendez-vous. C'est un homme très occupé, on va dire ça comme ça. C'est pas grave. On enchaîne avec le monsieur Oversea Business. C'est celui qui se balade dans le monde pour aller voir les compétitions, vérifier que tout se passe bien dans les ESWC nationaux. Et puis c'est surtout celui qui s'occupe que les partenaires signent leur gros chèque chaque année. C'est monsieur Gregorio, petit bonhomme Machadinho. Bonsoir Gregorio.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va. J'ai la faculté de faire rire en disant bonsoir. C'est incroyable.
Ah oui, effectivement, dans le studio, tout le monde est hilar.
C'est fou. Je parle bien dans le micro ou pas?
Ouais. Très bien, parfait.
C'est ce qui m'importe.
C'est parfait. Est-ce que notre régisseur Alexandre, qui a la technique, j'ai oublié de le préciser, nous valide que tout est bon?
Bonsoir.
C'est
Alexandre.
Parfait. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
On continue à ta gauche, Grégorio, avec le petit dernier.
C'est déjà fini.
Le petit dernier de la présentation et puis le petit dernier arrivé chez Game Service, hein. C'est le monsieur Cyber League. C'est bon, c'est le stagiaire, mais en fait non. C'est Maillard. C'est monsieur Sylvain Harriman Maillard. Bonsoir Sylvain.
Le chevalier blanc.
Bonsoir Amy.
Comment ça va?
Ça va bien.
Alors il paraît que tu es relativement bizuté à Game Service.
Oh, on va dire ça va quand même depuis deux mois.
On espère que cette émission se passera sans trop de heures.
Ah, j'espère, je compte sur eux.
On verra ça. Très bien. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Hein. On retourne à Raphaël après, mais on l'a déjà présenté. Adrien, Darian Vincent n'est pas là.
Super.
Il s'est fait excuser. Grégorio, tu m'as dit qu'il avait un mot de sa maman.
Oui, il a un mot de sa maman, il est malade.
D'accord.
Il est terrorisé parce qu'il va partir à Londres.
Ah.
Sous la pluie. Donc voilà, il a toutes les excuses.
C'est quelque chose d'à peu près habituel à Londres. Hein.
Bah oui, mais forcément, tu te dis, oh, le 1er décembre, peut-être que, mais non.
D'accord, très bien. Bon, alors durant cette émission, on va voir ensemble la rétrospective de Game Service et de la Coupe du Monde. En attendant que Mathieu nous rejoigne, parce que c'est quand même l'un des membres fondateurs de League Arena, on va commencer avec les Coupes du Monde. Alors, Grégorio, je te sens motivé pour un peu nous expliquer qu'est-ce qu'une Coupe du Monde. Si quelqu'un ne connaît pas le SWC,
c'est une coupe avec un petit support que le premier
Coupe du Monde des jeux vidéo.
Alors, la Coupe du Monde des jeux vidéo, comment ça a commencé? C'était certainement en 2002. En 2002, c'était les bonnes époques encore des LAN Arena. Et on avait quand même un gros côté international sur la LAN Arena 7.
Tout à fait.
Beaucoup d'équipes internationales à Quake, à CS. Et l'idée de passer un stade, parce que l'amphithéâtre Charlie Parker de la Villette nous avait fait un petit peu frémir. Il y avait eu des grands matchs, un côté chaud qui commençait à vraiment se développer sérieusement. Et on a voulu passer le cap, tenter quelque chose d'autre. Et donc on s'est lancé dans cette aventure où on a commencé à chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y a eu l'opportunité du Futuroscope qui en même temps s'est mis en place. Et on s'est lancé là-dedans avec une trentaine de pays la première année. Ce qui était, ma foi, un bon score.
Un beau défi,
oui.
De se lancer comme ça dans l'aventure, qui était un peu plus détenue par des géants comme CPL et WCG à l'époque.
CPL était très américain, mais c'est vrai qu'ils avaient quelques équipes internationales et puis il y avait un petit côté prestige sur l'événement de Dallas. Est-ce que je parle bien près du micro ?
C'est parfait, Grigo, ouais. Ne t'inquiète pas.
Mais dans deux secondes, j'aurais trop bué dans mes lunettes.
Pas. Tu peux te reculer un tout petit peu, si tu veux, on pourra augmenter.
Et c'est vrai que ICM qui nous avait lâché.
ICM, c'est Samsung, hein,
voilà,
Corée.
ICM, c'est Samsung.
WCG, etc.
On va dire ça. C'est vrai que leur projet, on le trouvait bien, mais nous, on avait une autre idée de ce qu'un événement international pouvait être, notamment au niveau de la représentation que ça pouvait être, de l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Et on a eu donc cette opportunité du Futuroscope, on a eu Nvidia qui nous a suivis, et ça s'est lancé comme ça. On a eu un énorme. Il y a eu deux facteurs énormes sur la première édition en 2003. Ça a été le suivi des partenaires internationaux contre toute attente. On pensait qu'on aurait beaucoup moins de pays et beaucoup moins de qualifs. Et il y a eu une super grosse réponse de ce côté-là. De nombreux pays étaient intéressés et c'est là où on s'est aperçu en fait qu'on répondait à un besoin de la communauté, à un besoin des acteurs qui sont sur ce secteur-là. Et qui manquait quelque chose sur la première début d'année au niveau de l'animation des différents tournois sur les différents jeux. Le deuxième facteur, ça a été l'ambiance incroyable qu'il y a eu en 2003 entre les joueurs qui étaient présents et la magie qu'il y a eu au Futuroscope pendant une semaine entre les premières représentations vraiment scénarisées sur scène, la mise en place des plasmas qui n'avaient jamais été faites et l'ambiance le soir au village. Voilà.
Alors justement, je vais me tourner vers les autres membres de Game Service. Olivier, toi, qu'est-ce que ça t'a fait quand, je sais pas si c'est Mathieu, mais quand on t'a proposé l'idée de la Coupe du Monde, quand on t'a dit, bah alors, qu'est-ce que t'en penses et si on le faisait?
Bah, est-ce qu'il y aura Quake?
Au début, disons que même un petit peu avant la dernière 7, j'avais déjà un peu pensé à réfléchir au côté. À certaines particularités de l'ESWC, je m'étais déjà dit ce serait sympa de faire un événement dans cette optique-là. On a déjà un peu parlé avant. Bon, on avait lancé la Narana 7 à l'époque, donc on a fait la Narana 7. Mais évidemment, quand Mathieu m'a parlé de faire un ESWC, j'étais tout de suite très chaud de faire ce truc-là parce que je pensais vraiment que ça pouvait donner quelque chose d'intéressant.
Mm-hmm.
Et donc moi, j'étais très 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 motivé à fond sur trouver les partenaires au début, sélectionner les bonnes disciplines, lancer un truc peut-être un petit peu plus pro dans la production et dans la compétition.
D'accord. Et toi, Aurélien ?
Bah, évidemment, chaud aussi. De toute manière, c'était une nouvelle expérience pour tout le monde à l'IRN à l'époque. Puis même, enfin, c'était un défi assez différent de par rapport à l'organisation de LAN. Donc même au niveau technique, c'était super intéressant, quoi.
Sylvain, je te demande pas puisque toi à l'époque tu n'étais pas encore à Game Service, donc tu l'as découvert un petit peu.
N'étais pas né malheureusement.
T'étais encore là heureusement, mais tu l'as découvert un peu avec nous hein, en tant que presse et que public.
Tu jouais pas ?
Et non.
Non, Sylvain a arrêté à la LA7, oui, je
jouais à la LA7.
Et oui, bah oui.
Oui, à la LA7 il a arrêté.
Rappelle-toi.
Pas une qualif Quake 3 ou un truc comme ça ?
Non, je crois pas.
Non, il avait perdu son niveau peut-être.
Ouais, je crois.
Ouais. À la 7, il y avait des qualifs. Hein.
Oui.
À la 7, il y avait
pour
des.
France, ouais.
Ah oui, pour la France. Mais pour la première SWC à Quake, c'était un invitational.
Ouais, c'était invitation normalement.
Voilà.
On a suivi le conseil, fallait pas l'inviter.
Déjà bon. À l'époque.
J'avais de quoi m'occuper à l'époque. Quoi.
Justement, Grégorio, toi, sur la première édition, donc on repart en 2003, juillet 2003, quel a été ton rôle sur cette première édition, à la fois en préparation et puis sur l'événement ?
Alors, dans la foulée de la LA7, où j'avais noué pas mal de contacts internationaux pour la venue des équipes CS étrangères, je me suis concentré sur le tournoi CS en pratique, sur sa mise en place. J'ai un petit peu vu les équipes qu'il faudrait absolument avoir. Et après, me suis un peu concentré sur les qualifs internationales. Et finalement, c'est cette partie qui, sur l'année, a pris le plus d'importance. Ça a été le recrutement de centres de qualifs, la mise en place des qualifs, la supervision des préliminaires. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, en fait. Je découvrais quelque chose de totalement différent au sein de Ligue Arena. C'était Ligue Arena à l'époque. Ou de Game Master, je suis passé sur un projet complet qui était la mise en place d'un réseau complet de qualifications pour accéder à un événement. C'était une expérience très intéressante et ça a perduré ensuite. Mais sur l'événement en lui-même, durant l'événement, je m'occupais du tournoi CS qui est, je pense, mon meilleur souvenir en fait d'organisateur de tournoi CS. C'était l'édition 2003. C'est aussi la dernière que j'ai menée absolument de bout en bout en tant que Game Master. Ça a été une édition pleine de rebondissements dans le tournoi. Et voilà.
Donc c'était en 2003, on rappelle, ça se passait au Palais des Congrès du Futuroscope.
Tout à fait.
Qui est le lieu aussi où se déroule la Gamers Assembly chaque année.
Venez nombreux.
Tout à fait. Et toi Aurélien, alors cette première édition, techniquement, comment ça s'est préparé? Puis comment ça s'est passé? Parce que c'est généralement jamais pareil.
Donc ça, c'était pas du tout la même approche, parce que au lieu de gérer un gros réseau et puis une ferme de serveurs, je me retrouvais à gérer aussi un parc assez conséquent de PC que je devais gérer de pied en cap, à savoir le système, les drivers, enfin tout ce qu'un joueur peut demander, et avec un degré d'exigence, comme on sait, très élevé. Voilà, un joueur. Donc c'était assez différent, et puis autour de ça, il fallait quand même que les spectateurs puissent vraiment jouir du spectacle autant que faire se peut, et donc il fallait développer des outils comme le score en temps réel dans CS, comme ce genre de choses. Donc ça m'a poussé à vraiment à chercher plus loin que ce qu'on pouvait avoir normalement par le jeu, quoi.
D'accord. Olivier, toi, quel a été ton rôle sur cette édition?
Et effectivement, quand on est passé sur SWC, je me suis plus occupé des compétitions d'un point de vue général, parce qu'on avait des nouveaux tournois, pas mal de tournois où il fallait gérer chaque Game Master. Et donc pendant le SWC 2003, je me suis occupé de superviser un petit peu le boulot de chaque Game Master pour voir si ça fonctionnait bien, la coordination entre la scène et les admins de tournois pour vérifier que les joueurs soient bien envoyés au bon moment pour les matchs sur scène. Toute cette partie-là, qui était un petit peu différente de l'époque du LAN Arena, parce qu'on tombe un peu sur des nouveaux problèmes pour la première fois qui avait lieu sur l'édition 2003. Et donc en gros, voilà, fallait gérer que tout fonctionne bien, que les tournois se déroulent bien à l'heure prévue et tout ça.
Quelque part, est-ce que vous y croyez quand vous avez commencé à travailler sur le projet? Est-ce que la foi était là, on va dire, parce que c'était quand même un grand pas en avant, c'était ça passe ou ça casse quelque part?
Est-ce qu'on y croit?
La foi était là pour plusieurs raisons, parce que, enfin moi perso, on avait à cœur de prouver, c'était un projet qui nous intéressait fondamentalement, et pour la société c'était un pas énorme. Et c'était un moment crucial dans la vie de la société, au niveau de ce qu'attendaient les investisseurs, au niveau de toutes les personnes qui nous supportaient, les sponsors. C'était un moment crucial et il fallait pas se louper. Donc on avait pas mal de pression. Et c'est vrai qu'au milieu, moi j'ai un souvenir du milieu de la semaine, quand on a vu à quel point tout défonçait. Il y avait déjà à cette époque, il y avait déjà un streaming vidéo qui était fait en reel vidéo et qui
n'a pas tenu longtemps.
Qui n'a pas tenu longtemps parce que la demande était colossale, et là on s'est dit il se passe un truc. Et on était assez contents là-dessus. Mais c'est vrai que pour nous c'était super important et on a découvert plein de choses.
Toi Sylvain, comment est-ce que tu l'as vécu donc en tant que e-journaliste à l'époque?
C'était assez différent en tant qu'e-journaliste, on venait. On se demandait un peu comment ça allait être.
Faut que tu parles bien en face de ton micro. Voilà.
On se demandait un peu comment ça allait être, parce qu'on avait surtout vu des Lanaraners avant fait par une Lanarana, donc dans l'attente, et en même temps on était très enthousiastes aussi de voir un événement.
Je te coupe deux secondes, on va changer de micro. On va changer avec le micro de Raphaël, voilà. faut que tu ouvres ton micro. Petit problème de micro, mais c'est pas grave.
On aura tout fait pour l'empêcher de parler.
Désolé, Raphaël. Vous allez vous prêter un micro. Sylvain, vas-y. Donc, tu étais une journaliste. Comment est-ce que tu l'as vécu?
Donc je disais, d'un côté on se demandait un peu comment ça allait être puisque c'était le premier événement de ce type-là pour Ligue Arena et on était plus habitués à voir des événements comme les LAN Arena 6 et 7. Et en même temps on était vachement enthousiastes de voir donc une société française organiser un événement de cette envergure avec autant de joueurs au niveau international qui venaient sur autant de disciplines à la fois.
D'accord, donc c'était une belle surprise, on va dire.
Oui, globalement.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas? Tu te rappelles de...
Ouais, là, c'était super bien, le SWCW 3. J'étais au boulot par 40 degrés. Je me souviens, c'était l'année où il avait fait la canicule et c'était top.
D'accord, ok, merci.
Je bossais.
Ça aussi, ça a été un facteur qui, oui, qui
et ça a joué beaucoup.
Ça a super aidé, la canicule.
Moi, ce que je me souviens de la SWCW 2003, en fait, c'est que comme j'étais le seul clandestin dans ma boîte à bosser, puis que tout le monde s'était barré au mois de juillet-août, sachant qu'il allait faire super chaud, j'avais la chance de regarder le stream tout seul. J'avais la connexion internet dans ma boîte tout seul. C'était super sympa. Et donc, j'étais content les deux premiers jours d'avoir le stream real. C'était ça, franchement, c'était vraiment le truc. On avait l'impression, en tant que spectateur, d'être dans l'amphithéâtre. Et de voir comme les spectateurs qui sont présents. Et ça, à l'époque, c'était vrai. Ça, c'était la révolution. Et pour les spectateurs qui étaient à l'extérieur, c'était, moi, franchement, c'était la grosse claque. Parce que j'avais l'impression d'y être en étant à Paris et Poitiers, c'est à 600 km, 500 km, quoi.
Ça, c'était un des trucs qu'on avait super sous-estimé et que surtout les gens qui nous aidaient pour le string avaient super sous-estimé. Et ça a été un succès monstrueux. Ils ont dû couper les robinets tellement ça
avait fait plus que l'entrée de je sais plus quel joueur à Barcelone, de joueur de foot. Enfin, c'était vraiment
démentiel. C'est hallucinant. Moi, je me souviens, c'est que les deux premiers jours, c'était tranquille pour pouvoir y accéder. Et je crois que c'était le troisième jour. À partir, c'était le début des quarts de finale dans le Counter-Strike. C'était la lutte atomique. C'était même plus vivable. Et le site, c'est la première fois qu'on voyait un site qui, pour l'e-sport, qui ne fonctionnait plus. Qui avait planté, que c'était saturé, quoi. C'était trop de monde, c'était pas le site qui était down pour transfert.
C'était juste, mais... en fait, le lendemain de la grosse mine que s'était mis Aurélien, et donc, du coup, ça marchait plus.
D'accord. Tout s'explique, alors.
Je dément.
Tout s'explique.
Ok. C'est l'alcool. Donc, voilà, ouais. Non, moi, j'ai commencé le WC qu'à 2004, malheureusement.
Quel a été votre meilleur et votre plus mauvais souvenir sur cet événement à chacun? Il faut réfléchir, hein.
Ah ouais.
C'est pas simple. Le meilleur, ça doit être.
Le meilleur, je sais pas. Le meilleur, il y en a eu beaucoup, donc peut-être la seule fois. On était très très concentrés sur ce qu'on faisait et on n'a pas eu l'occasion de beaucoup passer dans le village. Enfin, en tout cas pour moi, mon meilleur souvenir, c'est d'être passé dans le village un soir et d'avoir vu l'ambiance terrible qui y régnait. Et c'était sympa. C'était sympa de voir tout le monde un petit peu éméché, les SK qui tapaient la discute avec des mecs qui venaient d'Ouzbékistan, enfin bon, des mélanges totalement improbables, et ça prenait super bien. Ça, c'est vraiment un bon souvenir. Mon mauvais souvenir, c'est ma traditionnelle crise d'hypoglycémie qui m'a fait m'effondrer le jeudi matin. Voilà, petite surtension et tout, mais bon, on était énormément surmenés. Et voilà, mais c'était pas très grave.
Toi, rien ?
Mon meilleur souvenir, c'était sur la pelouse en face des hôtels avec Prozac, où on a discuté de choses et d'autres pendant toute une soirée. C'était très très chouette. Et puis bah, le pire c'est le ventre complètement à l'envers pendant la finale, parce que le stress, que quelque chose pète pendant le match, et ça a été ça pendant tout l'événement, mais pendant la finale c'était vraiment
la fin quelque part, hein. c'était la dernière ligne droite.
Ouais, et puis l'espèce de moment où tu te dis voilà, ça y est, c'est fait, et le ventre il tient plus, quoi.
Et toi, Olivier?
Moi, je me rappelle à l'époque, la première fois où j'ai vu la scène, je me rappelle avoir été bluffé parce que la scène montait avec les écrans plasma, tout qui fonctionnait, parce que j'avais pas vraiment eu le temps de l'avoir avant. J'avoue que sur le moment, j'avais pas réalisé qu'on allait avoir une scène comme ça. J'étais peut-être trop occupé en train de gérer toute la partie compétition. Et j'avoue que la première fois que j'ai vu la scène, j'étais un peu, c'est un très très bon souvenir. C'est la première fois que je me suis dit, tiens, ce qu'on est en train de faire, voilà ce que ça donne, voilà ce que ça peut faire, voilà jusqu'où on peut aller. Et donc c'est assez encourageant, on va dire. Et le plus mauvais souvenir, c'est pas forcément plus mauvais, c'est l'un des problèmes qu'on avait dû gérer en 2003, c'était le fameux problème de la prise électrique à War 3, qui nous avait causé pas mal de problèmes.
Alors raconte-nous un petit peu.
La Mad Frog.
Quel était ce problème-là?
Une nouvelle marque de prise électrique.
En gros, sur une des tables sur lesquelles il y avait les joueurs, en fait, l'électricité a été câblée avec des prises électriques sur lesquelles il y avait un switch on-off.
D'accord.
Bon, petit détail.
C'est des prises anglaises, ça.
Et donc du coup, nous on n'avait pas fait attention, on s'est dit bon, on avait bien mis les câbles derrière, il ne devait pas y avoir de problème. Et lors d'un match entre, je sais plus exactement quel joueur.
Matt Frog et Sweet.
C'était Sweet, voilà. Sweet contre Matt Frog. Je crois que c'est Sweet qui avait largement l'avantage. Matt Frog, il était en train de perdre la partie. Et tout d'un coup.
Il y avait 1-0 déjà en plus pour Sweet.
Il y a 1-0. Donc en plus, c'était un match décisif pour savoir qui passait dans l'arbre. Donc c'était vraiment le match ultra tendu. Il y avait plein de gens qui regardaient. Et tout d'un coup, il y avait des gens qui étaient derrière l'écran de Matt Frog qui voient l'écran qui s'éteint. Et tout le monde qui comprend pas ce qui se passe. Et le joueur qui recule. En disant qu'est-ce qui vient de se passer, et en fait il venait d'appuyer sur le fameux
sur l'interrupteur
on-off de la multiprise. Donc du coup ça a engendré une polémique du est-ce qu'il l'a fait exprès, est-ce qu'il l'a pas fait exprès, qui a amené beaucoup plus de bordel que qu'il n'aurait dû, parce que finalement pas mal de joueurs étaient derrière, pas mal de gens étaient avaient pu nous indiquer comme quoi a priori il l'aurait pas fait exprès parce qu'il s'était reculé, même étonné, enfin il y avait vraiment beaucoup de monde autour. Mais bon, forcément quand c'est un match de tel enjeu, il y a toujours le et si jamais il l'avait fait exprès, et du coup ça engendrait une petite polémique qui sur le moment était un peu de galère à gérer.
Le bordel il est venu surtout à la fin du match, parce que il y a eu 1-0, il recommence la game parce qu'à cause des règlements on devait recommencer la game, et 1 partout et 2-1 finalement pour Matt Frog, et c'est après que le coréen s'est un peu posé des questions.
Il y en a eu des... Il y en a eu d'autres des soucis comme ça durant cette édition, ou ça a été le...
Non, s'il y a eu le premier soir.
Ouais.
Non, toi tu parles pas à Maya.
Sylvain voudrait parler, Sylvain lève le doigt. D'accord.
Maya, tu dis rien. si le premier soir, on a ouvert match d'ouverture à MTW où on avait eu un tout petit problème entre le rafraîchissement de certains plasmas et les cartes graphiques qu'on avait, et on n'avait pas pu mettre les plasmas pour le match d'ouverture. Ça c'était dommage. Et ça c'était un tout petit truc qui était complètement dépendant de notre volonté, mais notre prestataire de l'époque, c'était de la faute de la prestataire de notre époque, et c'était réglé dès le lendemain matin pour le premier match CS, où les gens ont pu découvrir la techno qu'on avait mis en place de suivi avec les plasmas qui s'éteignaient.
C'est-à-dire un plasma par joueur.
Un plasma par joueur avec ce système
et le fade to black.
Synchro, ouais. Voilà, avec le fade to black et le spot au-dessus du joueur qui s'éteignait.
Sylvain.
Moi je dirais, malgré le problème des plasmas qu'il y a eu sur le premier match, à mon niveau, ma plus grande surprise et ce que j'ai vraiment préféré le plus, c'était justement toute la scène et l'amphi, parce que pour la première fois, il y avait vraiment un concentré de nouveautés techniques d'un seul coup qui était assez incroyable. Sur les plasmas pour tous les joueurs, les jeux de lumière avec les joueurs, les cardio-fréquences-mètres, les casques pour pas qu'ils entendent le bruit, etc. Tout ça faisait vraiment que la scène en elle-même c'était vraiment... un pas décisif qui venait d'être franchi à ce niveau-là. Et je dirais dans les regrets, c'est simplement la polémique qu'il y avait eu en début de SWC par rapport, si je me souviens bien, à Rennes et au fait qu'il devait y avoir, je crois, des HLTV payants, quelque chose comme ça.
C'est vrai.
Et que finalement non, etc. Ça avait fait beaucoup
tu
de bruit.
Tu as bonne mémoire, c'est là.
Sur Internet,
merde,
sur les sites Internet.
T'es viré, bon, bah,
c'est ce que je pensais. J'ai même passé dans ta tête. Bon, bah Sylvain, salut. Hein,
je vais y aller, je crois. Maintenant.
Ouais, tu prendras ton chèque à la compta.
À la compta. Ouais, on avait complètement oublié cette histoire d'arrêt.
Ouais. Ça a été réglé, puisque finalement
ça s'est résolu dans les 48 heures qu'on suivit les 24 heures.
Très bien.
Ouais.
Je crois que on va pouvoir accueillir dans une poignée de secondes notre dernier invité.
Pour finir, le temps que Mathieu s'installe, il y a un truc qui est super intéressant qu'a dit Olivier, c'est qu'on est passé d'une structure qui organisait des LAN Arena pratiquement une fois par an à une structure qui organisait le SWC.
Ouais.
Et c'est intéressant le point qu'il a souligné en disant lui découvrait totalement la scène parce qu'il s'occupait de la partie compétition. Ça a été ça pour tout le monde au sein de Ligue Arena, parce qu'on n'a pas grossi en effectif, mais on a organisé un truc qui était 10 fois plus gros. Et c'était magique le mercredi, le mardi soir, de s'apercevoir que tout était nickel et que c'était un travail d'équilibre, quoi. Chacun s'occupait de sa partie et en confiance totalement aveugle sur les autres. Et c'est un truc qui a fonctionné à merveille.
Faut que Mathieu nous explique la recette justement pour faire quelque chose de 10 fois plus gros avec autant d'effectifs. C'est quelque chose qui peut intéresser certaines sociétés.
L'esclavagisme.
L'esclavage, nous souffle-t-il. D'accord, très bien.
Et là, on fera encore un truc, mais sans Maya, puisqu'il a déconné.
Et oui, je suis viré, je l'ai.
L'affaire à Rennes, c'était pas bon. Fallait pas le rappeler, pas maintenant. C'est écrit sur le papier, Sylvain, quand t'es rentré.
Ah, j'ai pas lu.
Il sait pas lire.
Pauvre Sylvain.
Je réponds juste au téléphone, moi, en fait.
D'accord.
Cyberlise, bon, bonjour.
Alors, on va
si
pouvoir.
Si vous voulez vous moquer de Maya, vous appelez Cyberlise.
On va pouvoir donc accueillir.
Quelque chose, je crois.
Tu sais, il teste les chaises. Alors, Mathieu. J'avais raison que les chaises.
Non, laisse là, il y aura Rémi après.
Il y a Rémi.
Choisis ta chaise, mais.
Choisis ta chaise, t'as le choix entre deux, voilà.
Il y a un chien qui a chié dessus, là, tout à l'heure.
Non. Mathieu, le micro rouge.
Tu te fous le micro dans la bouche.
Comment ça va?
Ça va. Je suis désolé pour le retard. Vraiment,
oui.
Je suis désolé.
Est-ce que tu as un mot de ta maman? Non. Ça va pas être possible alors. Normalement, il faut un mot. Hein. Bon, on a commencé la rétrospective avec ton staff. On va dire ça comme ça. Hein. On a
c'est pas
parlé.
Mon staff, on est un staff. Hein,
d'accord.
Ensemble.
Avec le staff de Game Service.
Ouais.
Mais est-ce que vous avez un cri de guerre, Game Service, après tout?
Ouais, Maillard.
Maillard. Maillard. Très bien. Bah... On pourra le refaire de temps en temps, sans souci, hein, comme un Fort Boyard en fait.
Tu dis Maillard et nous on fait ouah.
D'accord.
Sauf donc, moi.
On a parlé de la Coupe du Monde 2003 et puis on voulait t'attendre pour commencer
2003
la rétrospective.
Ah ouais, oui. Nous on tape dans le loin.
Wow.
C'est la rétro.
On voulait, pas commencer, on voulait pas commencer le tout début de Ligue Arena sans toi, sachant qu'Adrien s'est fait excuser aussi, mais lui il a un mot de sa maman, donc lui il a le droit.
Il triche.
Il écrit à la place. Ouais. D'accord, ok, bah, tout s'explique alors. Bon alors Mathieu, on va revenir au tout début de Ligue Arena, parce que tu es quand même un des membres fondateurs de cette société.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est venue cette idée quelque part de créer une société, c'était l'une des premières, si ce n'est la première, dédiée à l'organisation d'événements pour les jeux vidéo?
Ouais, alors c'est une très longue histoire, je vais donner juste les moments clés. Moi j'ai rencontré Adrien. C'est Adrien Vincent qui a été au centre un petit peu du de la synergie qui s'est créée sur toute l'année 2000. J'ai rencontré Adrien quand je travaillais chez Club Internet, hein, et on a monté une société ensemble en 98 qui s'appelait Synapse et qui était une société de services de développement de sites internet et de développement de logiciels, de petits trucs comme ça. On était jeunes, lui il avait je crois 21 ou 22 ans, moi j'avais 24 ou 25 ans. On était tous les deux étudiants et on travaillait le week-end pour payer nos études et on s'est dit tiens on va monter une boîte pour pouvoir facturer des services parce qu'on avait quelques compétences. Ça a été une année très dure, on s'est pas payé mais on a accumulé un petit capital et puis surtout on s'est dit merde putain c'est chiant, on se marre pas quoi, on s'amuse pas, on était joueurs et Adrien connaissait très bien Jean-Philippe qui était à l'initiative des LAN Arena à l'époque qui avait connu un certain succès. Et connaissait Grégorio, connaissait un certain nombre de personnes. Donc il a catalysé toutes ces personnes dans son entourage. Il m'a fait rencontrer Jean-Philippe et on a imaginé ensemble un projet de société lié au gaming, lié d'abord à une activité censée pérenniser l'organisation de LAN party et l'existence de Cyber Leagues dès le début. On a recherché des fonds. Je raconte vraiment les choses de façon très condensée. On a recherché des fonds pendant près d'un an. Pour financer ce projet, parce que ayant une expérience d'entreprise, on savait que c'était difficile de commencer sans rien, de commencer avec des petites mains. On voulait vraiment faire quelque chose de grand. On a rencontré plusieurs fonds d'investissement, et puis un jour, grâce à Axel Charpentier, qui était le quatrième fondateur, on a rencontré un fonds d'investissement qui était la BNP Capital, et qui a cru en notre projet et qui a trouvé une société qui s'appelait Overgame à l'époque pour être un peu la société senior qui allait nous encadrer et qui allait porter le fonds d'investissement de départ. Donc on a créé Ligue Arena avec un capital et on a pu tout de suite embaucher toutes les personnes clés qui sont aujourd'hui autour de cette table et qui ont fait l'existence et la valeur de cette société, c'est-à-dire essentiellement les hommes dès le début. Et donc Greg, Olivier était là dès le début. Aurélien n'était pas là dès le début, mais il était dans les LAN Arena et il a assez vite intégré l'équipe. Et puis bon, il y avait d'autres personnes, mais ça c'est un peu la vie qui a fait qu'on a eu des chemins différents. Mais disons qu'on a vraiment eu une équipe très forte au départ, tous animés par le même projet de professionnaliser notre passion. Sur les deux premières années, ça a été très difficile. C'est-à-dire que il y a eu un enthousiasme lié aux moyens au début, qui nous a permis de faire des beaux événements LAN Arena, mais qui sur le plan de l'entreprise était une catastrophe. C'est-à-dire que en termes de financement, on était à côté de la plaque. Quoi. On n'avait pas de modèle économique finalement, parce que Cyber Leagues ne décollait pas. Il n'y avait pas encore de rentabilité liée à l'activité du gaming, d'être classé. Enfin, tout ça, c'était vraiment très très nouveau sur 2001-2002. Ce qui fait qu'on s'est très très vite essoufflé en termes de projet d'entreprise. Et même si deux ou trois fois par an, on avait des beaux événements, donc on a lancé WCG en France, on a fait des LAN Arena quand même comme on a pu, on n'avait pas trouvé la mécanique pour que notre entreprise ait une raison d'être. Et donc tout ça, ça a été très euphorique au début, sur fin 2000, début 2001, et puis 2001-2002, ça a été très très dur. Jusqu'à l'organisation de la LA7, autour de laquelle on a beaucoup souffert en termes de moyens, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais étendu dessus, mais on a vraiment été d'une certaine façon planté par notre enthousiasme. On a attendu beaucoup de nos partenaires et on a finalement découvert la réalité d'une entreprise et d'un métier, c'est-à-dire que voilà, faut compter sur personne que sur soi quoi dans la vie, il faut vraiment tout construire et ne se lancer dans aucune aventure si on n'est pas sûr à l'arrivée d'avoir les moyens de faire ce qu'on veut. Et ça a été une grande leçon et à partir de là, on a dû tout repenser le concept, déjà élargir la cible forcément, valoriser notre potentiel international. Ça, c'était quelque chose de très nouveau qu'on avait perçu avec notre relation avec WCG sur toute l'année 2001 et à travers, on va dire, la demande très forte qu'il y avait de participation au LAN Arena, parce que les LAN Arena, historiquement, sont des événements internationaux. Et donc, fort de cette demande internationale de participation à nos événements, du fait qu'on était un laboratoire du gaming, c'est-à-dire on a été les premiers à faire des matchs sur scène, à les diffuser sur des écrans géants, à faire des commentaires autour des matchs, en dehors de la Corée, hein, je veux dire, on a refondu le concept et on a créé Electronic Sports World Cup. Et c'est cette année-là que j'ai remplacé Jean-Philippe à la tête de Ligue Arena. Et donc, tous ensemble, on a construit ce qui est devenu aujourd'hui le SWC, c'est-à-dire une Coupe du Monde des jeux vidéo, avec une première édition sur laquelle on a posé toutes les bases de ce qui fait notre réussite aujourd'hui. C'est-à-dire des conditions de jeu optimisées pour les joueurs, la reconnaissance d'un vrai statut pour le joueur comme un sportif, avec tout le respect qui va autour et toute l'attention médiatique qu'il faut pour que ce sport décolle. On a créé un vrai spectacle qu'on a essayé de porter à la télévision. On est encore loin du compte, mais on a été les premiers à avoir cette démarche-là. Et puis, on a instauré un système de revenus basé sur une licence dont aujourd'hui Grégorio a la responsabilité. C'est-à-dire que la première année, tous les partenaires qui voulaient être impliqués dans notre événement ESWC ont eu accès à des droits d'exploitation de cette marque et à des droits de financement dans leur pays des opérations de façon complètement libre. Et aujourd'hui, ces droits sont vendus. Ce qui nous permet d'avoir une société qui a un projet toute l'année, qui est celui de développer sa marque mondialement et d'être finalement rentable grâce à la valeur de sa marque. Qui est vendu à des opérateurs dans des pays, qui a une activité de production événementielle autour de laquelle le sponsoring permet de payer l'événement d'une certaine façon, qui a professionnalisé l'utilisation de CyberLeagues et qui en fait aussi un pôle de revenus parce que voilà, aujourd'hui CyberLeagues est un service qui fonctionne avec un prix peut-être qui est discutable, on verra, mais qui en tout cas aujourd'hui propose un service payant et qui devrait être équilibré à la fin de l'année. Voilà, donc toutes les bases se sont posées de cette façon-là.
D'accord. Voilà. Bon, ça a été un résumé de la rétrospective.
Oui. On va revenir sur quelques points de détails.
Mais écoute, on va se quitter, on va laisser les gens, voilà.
Alors, sur les nombreux, ce sera à Bercy. Juste un détail. Là, tout à l'heure, Mathieu disait qu'autour de la table, c'était tout le staff. Maillard était pas là au début. Il faut.
Voilà. C'est pas vrai. Maillard était là. Maillard n'était pas là dans ces conditions-là, mais il était.
Maillard n'était pas. Il est sur les. Demain au bureau,
il est sur les photos.
Joueur, e-journaliste et puis maintenant staff.
Non, mais
quelle est la prochaine étape?
Dans cette, alors juste pour en revenir à ces premières années, bon, même si pas mal de gens connaissent un petit peu le contexte, il faut quand même rendre hommage à Jean-Philippe et à Métabé qui ont participé à la création de cette société au départ. Chacun a eu son histoire et son évolution personnelle, mais disons que au départ de cette société, il y avait quand même les LAN Arena. C'est ça qui nous a donné une crédibilité sur l'international et qui a permis de faire ce qu'est aujourd'hui le SWC. Voilà.
D'accord. Bon, alors on va revenir un petit peu à la création de Ligue Arena. Moi, j'aimerais savoir, Grégorio, comment s'est passée un petit peu ta rencontre avec Adrien, avec Mathieu, et quand ils t'ont proposé un petit peu de les rejoindre, qu'est-ce que t'en as pensé? Comment
ils ont joué à tourner manège?
Est-ce que tu t'es inscrit à un site de rencontre?
J'ai rencontré Adrien à la fac en fait, avec Axel d'ailleurs. Ils étaient dans le même pool de personnes que je fréquentais. Et j'ai rencontré aussi Jean-Philippe à l'époque de la faculté. Et au travers d'Adrien, j'ai rencontré Mathieu quand ils étaient dans l'affaire Synapse. Et j'étais à l'époque l'accro de CS. Avec d'autres qui jouent à CS aussi, mais moi j'y passais particulièrement mes nuits. Et quand ils ont eu besoin de quelqu'un pour CS et j'ai eu la chance qu'ils pensent à moi. Et à l'époque j'étais employé dans une web agency et j'ai foncé, j'ai donné ma dème et j'ai saisi l'opportunité qui était non seulement de rejoindre une équipe sympa, mais aussi de commencer une aventure totalement hallucinante. Tu fais quoi dans la vie? J'organise des tournois de jeux vidéo, ouais, c'est super. et donc voilà, et puis et ça a commencé comme ça jusqu'à l'évolution qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de très très valorisant, qui est de s'occuper d'une marque et de la faire fructifier à travers les 5 continents.
Et toi Olivier, comment ça s'est passé ?
C'était plus ou moins la même chose, sauf que moi au début je connaissais que JP et David, Metabé. Et j'avais organisé les tournois à l'époque du LA3 et du LA4, le tournoi Quake 3. À l'époque, j'étais joueur organisateur, on va dire, je faisais un peu les deux. Et du coup, effectivement, c'est JP qui m'a recontacté au courant d'août, août de 2000, pour me proposer justement d'intégrer une équipe, parce qu'il est en train de monter Ligue Arena. Et donc moi, c'est plus ou moins bien goupillé avec le travail que j'avais à ce moment-là, que je quittais, pile poil au moment où JP est venu me voir pour me proposer ce projet-là.
Aurélien ?
Moi, en fait, j'organisais des LAN depuis très longtemps, depuis 1995.
Ouais. Quake 2
Même Quake. Avant ça, Quake World, ouais. Même pas Quake World, Quake Net.
D'accord.
Et puis, j'ai rencontré, pareil, Jean-Philippe, David, bien avant les premières LAN Arena. On a sympathisé, on est devenus amis parce qu'on jouait tous à Quake. Et puis, assez logiquement, en 2001, j'ai essayé de voir si je pouvais pas mettre le doigt dans l'engrenage de Ligue Arena, qui était fraîchement créé, et puis j'ai quitté mon boulot, j'ai arrêté mes études pour continuer. Enfin, j'ai quand même eu mes diplômes, quoi, mais je suis passé.
Bravo, bol, c'est bien.
Je suis passé le Ligue Arena, quoi. Je regrette pas.
Pas de regrets ?
Non, aucun.
C'est le principal, après tout. Alors, donc, on va aussi, durant cette émission, annoncer quelques petites choses. On en a parlé de nombreuses fois, mais c'est cette fois-ci. Pardon ?
Voilà, c'est dit.
Voilà. Très bien, on va se quitter alors à nouveau. Très bien, c'est fini.
La scène au ralenti, s'il vous plaît.
Ce soir, on va avoir. Mais ils sont fous ! Je suis dans un studio de fous. Ce soir, on va avoir plusieurs informations. On va avoir les disciplines officielles de la Coupe du Monde 2006.
Ouais, j'espère.
Ça veut dire que j'ai
laissé mon portable allumé.
On attend un coup de fil.
Ah, on attend un coup de fil ? D'accord. Ouais, on capte pas ici. T'as Orange ou SFR ?
C'est Orange.
Tu captes.
Tu captes.
De la chance, SFR, tu captais pas. Hein. L'avenir de Game Service se joue à cause d'un opérateur.
Non, j'aurais aimé pouvoir tout annoncer ici ce soir.
Ouais.
On pourra presque tout.
C'est-à-dire qu'il manque une discipline ?
Non. Il manque une plateforme.
D'accord. Bon, admettons. Bah écoute, tu nous annonceras tout ça. On aura aussi donc les prize money, enfin une partie des prize money évidemment, qui seront associés aux disciplines.
Ah bah alors là, je les connais pas par cœur. Enfin, dans les. Ouais, si on. Ah,
Olivier les a dans les grandes lignes. Bien.
Ça sert à avoir
un bah, Olivier est un ordinateur.
Ça s'appelle aussi Excel.
D'accord.
Il est relativement bien ventilé ce soir, donc ça devrait bien se passer.
Ils font bien les visages. Hein,
ouais,
et la texture des cheveux est pas mal.
C'est très très crédible.
C'est assez réaliste.
Hein. C'est Blade Runner revu et corrigé.
Comment ça va, Témil ? Ça va ?
Ça va.
Alors on verra aussi les détails sur les qualifications, sur tout l'aspect du parcours de la Coupe du Monde 2006 en fait.
Oh oui.
Avec les grands pays, Chypre, l'Iran.
Je dis ça aussi pour vous remémorer ce que vous allez devoir annoncer, hein. Je vous aide un petit peu.
Ouais,
hein.
Super.
Je vous tends le bâton en fait quelque part. Super. Bon, j'aimerais qu'on commence quand même avec une discipline là, il est 19h45.
Ouais. Qui c'est qui va en
donner ? Alors il y a combien de disciplines en tout ?
Ah ouais.
En vrai, hein,
pas ah bah là, ça pose...
Pour moi il y en a...
Il y a un trick, encore une fois. Il y en a une qui compte double. On va dire que c'est la plus facile.
Ok.
Il y en a une qui compte pour les garçons et pour les filles.
D'accord. Mais on va dire que c'est deux disciplines, puisque quelque part c'est deux tournois.
C'est
deux disciplines.
Eh
ben vas-y, on va te la donner celle-là.
D'accord.
Voilà.
Alors, on a beaucoup réfléchi avec ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ils ont été 3 minutes et ils ont réfléchi.
On s'est assis 3 minutes, voilà, on a regardé ce qui s'est passé au niveau de la scène Counter-Strike l'année dernière. On a été contacté par Valve, on a vu ce qui s'est passé au WCG, on a été finalement convaincu.
C'est aussi.
Et on a décidé de sauter le pas et de directement et vraiment de manière super convaincue ne totalement pas faire CS Source.
Oh. Et là c'est une grosse flamme pour tous
Pourquoi
les fans de CS Source.
Ouais, si
pourquoi
faire des blagues à chaque annonce de jeu, on va être pauvre. Hein.
Sur les autres jeux, ça va être compliqué. Donc on a décidé de pas faire CS Source, mais CS Filles.
Uniquement.
Ouais.
D'accord.
Non, CS Filles et CS 1.6, 1.6 pour les deux.
Donc deux disciplines déjà. CS 1.6.
Deux disciplines pour un jeu. De manière à à continuer avec cette version du jeu qui est quand même la version qui est pour l'instant la plus adaptée.
C'est choisi en fonction de l'envie des joueurs ou c'est pour une simplification pour vous ?
Depuis le début de l'ESWC, on suit l'envie des joueurs en fait. On essaie d'être le plus proche possible de la communauté et...
Oui, il y a.
Ça a toujours donné ça. Ouais.
Non, mais on peut même le dire. On est. Parce que c'est pas vrai pour toutes les organisations internationales.
Ouais, c'est ça que je pensais, parce que WCG cette année, si on fait CS Source, c'était pour des enjeux financiers.
On a un modèle qui est simple, c'est-à-dire qu'on est indépendant sur le choix des jeux. On choisit nous-mêmes les jeux sans pression financière. On n'a jamais voulu être une opération marketing où un éditeur arrive et dit je paye pour avoir mon jeu. On veut choisir les jeux. Et ensuite, on va voir les éditeurs ou les studios, enfin les détenteurs des droits, pour passer des accords avec eux. C'est-à-dire pour avoir le droit de faire ce métier-là et puis pour qu'ils nous aident au maximum parce qu'on leur fait énormément de publicité. Mais au départ, on est seul à choisir les jeux. Et visiblement, Valve aujourd'hui, ça a été la preuve avec le World Tour, on les a contactés, Valve est dans une logique où encore cette année, ils acceptent de finalement autoriser une licence de tournoi autour de 1.6 parce qu'ils sont pas bêtes, quoi. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a 100 000 personnes qui jouent à 1.6 pour 20 000 qui jouent à Source et que entretenir Counter-Strike 1.6, c'est aussi entretenir la marque Counter-Strike et peut-être faire qu'un jour, CS Source Si CS Source répond aux attentes des joueurs en termes de gameplay, de hitbox, de moteur physique, le jour où il correspondra au parc de machines internationales installées, parce que c'est aussi un problème pour jouer, il faut avoir une machine puissante, et ben peut-être qu'ils supporteront cette fois-ci que des tournois CS Source. Mais aujourd'hui, ils sont encore assez intelligents pour autoriser et supporter des tournois 1-6. CPL donc a mis un peu plus de temps que nous à le comprendre, ils ont autorisé le World Tour sur CPL 1.6 et ils nous donnent leur bénédiction pour ESWC sur 1.6. Donc tout va bien.
Très bien. Bon, bah déjà deux disciplines. Est-ce qu'on a les prize money qui vont avec Je me tourne vers
Olivier. Combien ils vont gagner Combien tu vas gagner?
Les prize money sont demandés à l'accueil.
Alors, sur Counter-Strike, il y aura un total de 160 000 dollars. Et sur CSFI, 40 000 dollars.
Ouais. C'est-à-dire que, encore une fois, on est d'ailleurs peut-être même le seul tournoi CSFI au monde, mais en tout cas, on est le plus doté, ça c'est
D'accord.
On avait déjà fait un énorme pas en le dotant de 30 000 dollars l'année dernière. Là, les filles sont dotées de 40 000 dollars.
On fait pas x2, mais bon.
Ça donne envie de.
Sachant que le tournoi des hommes est un tournoi mixte. C'est-à-dire que si des filles veulent participer au tournoi à 160 000 dollars, elles le peuvent.
Le jour où une équipe fille gagnera, sera top mondial CS et pourra faire les deux tournois et gagner les deux tournois, ce sera.
Ouais, ce jour-là, il y aura plus de tournois.
Je pense pas qu'il y aura un tournoi fille. Ouais.
C'est possible. On sait pas, hein. Peut-être qu'une équipe de garçons qui gagne peut changer de sexe et participer aux deux tournois. Hein. Tout est possible.
Hein. Côté, c'est rigolo ce qu'il vient de dire, Matt, quand même. C'est-à-dire que quand même, il autorise quand même les filles à faire le tournoi de garçons.
Oui.
Mais pas l'inverse.
Ça, c'est valable pour tous les jeux.
Mais c'est parce qu'il y a toujours la guerre, en fait, entre les. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas.
Ça a jamais été interdit. Il a fallu, à chaque fois, en fait, qu'on est contacté par des équipes de mecs un peu jalouses et leur expliquer pourquoi. Enfin, pas se justifier, mais on essaie d'être au contact de la communauté. Donc, on répond un peu à pas mal de mails assez idiots. Et à chaque fois, le tournoi général est un tournoi qui est ouvert à tout le monde. Après, on fait un tournoi qui est dédié uniquement aux filles parce que ça permet de porter la scène et puis la mettre à la tirer vers le haut. Mais sans mauvais jeu de mots, Rémi, je te vois, arrête.
Moi, jamais. Hein, c'est pas mon job.
Mais ça a toujours été ça depuis le tout début.
Alors, j'ai aussi une question quand même. C'est 160 000 dollars, ça fait beaucoup. Qui c'est qui signe le chèque?
C'est Adrien.
Est-ce que c'est dur?
Donc
ce soir, en fait, il est au McDo parce qu'il va commencer ses économies.
Ça commence.
Une signature à 160 000 dollars, il n'y a pas grand monde qui le fait quand même.
Ouais, en plus, c'est plusieurs petits chèques. En fait, c'est des virements bancaires, c'est extrêmement compliqué.
Ah.
Je t'assurais que là, on est encore dans une phase de paiement des dernières équipes de l'ESWC 2005. Faire des virements internationaux, c'est super compliqué.
Super compliqué.
C'est facile avec l'Angleterre, les États-Unis, mais quand tu dois verser de l'argent en Chine, enfin tout ça, c'est une énorme galère.
Puis il faut pas se tromper de numéro.
Ouais, bien sûr. Et il faut pas que les joueurs se trompent de numéro. T'imagines pas le nombre d'erreurs qu'on reçoit lorsqu'on demande les informations bancaires des champions. Mais bon.
Il y a peut-être une niche alors pour les escrocs.
Ouais, bien sûr.
C'est le moment. Hein. Renseignez-vous, faites-vous passer pour des joueurs.
Qui paye, pour répondre clairement à ta question, ce sont les sponsors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une marque s'investit sur le SWC en sponsoring, elle paye pour la production de l'événement, pour qu'il y ait son logo partout. Et dans la valeur de l'événement, on lui dit qu'à un moment donné, il y aura un prize money, il faut qu'elle contribue à ce prize money. À nous de construire au départ les financements qui vont bien, pour qu'à l'arrivée, on ait les moyens de les payer et payer l'événement qu'on promet.
D'accord. Bon, alors 2003, c'était la première Coupe du Monde, mais c'était aussi la première Coupe de France. Organisé par Ligue Arena. Alors, elle s'est passée à Lyon. Ça a été un petit peu bah, le coup d'essai, puisqu'en fait, elle s'est déroulée un mois et demi avant la Coupe du Monde. Ouais. Comment est-ce que ça s'est déroulé, en fait, vos souvenirs là-dessus Est-ce que c'était un petit peu difficile?
Moi, j'en ai un super souvenir, parce que ça a été... on revenait, c'était notre premier événement depuis un moment, et la consigne du chef, c'était clairement, il faut défoncer. Et ça s'est super bien passé. Moi, je m'en souviens très, très bien.
Ah ouais, ouais,
il fallait, on sentait le truc venir de l'SWC.
Et, ah ouais, nous, on le savait, ouais.
Et on savait qu'on avait tous ces engagements dont on a parlé tout à l'heure, toute cette pression et tout. Et ça s'est super bien goupillé. Super
bien. T'imagines, t'annonces que tu fais une Coupe du Monde, tu l'appelles Electronic Sport World Cup et tout, ouais. Et tu te craches à tes sélections nationales. Bon, ça s'est vu, hein.
Ouais. Non, ça c'était. Mais je sais que les joueurs en ont un super souvenir aussi. Oui. Au niveau tout ce qui était conditions de jeu. Tournoi, je sais qu'ils en ont un super souvenir. C'était très bien, il faisait chaud.
Pourquoi Lyon à l'époque?
Pourquoi pas?
C'est une bonne réponse. Je valide. Oh, et voilà, on valide.
Dans tes gencives. Pourquoi pas Lyon?
Ouais, mais alors si tu te mets à poser des questions comme ça, on est pas gentil. Hein, parce que...
On a le temps, on n'est pas pressé.
Écoute, on voulait faire la Coupe de France en province. Depuis toujours, on nous taxait de faire des LAN Arena à Paris. D'accord. Et d'être parisien. Voilà, il n'y avait aucune raison qu'on reste et qu'on fasse tout à Paris. On était très contents d'aller au Futuroscope. Je pense qu'on parlera du Futuroscope après, mais dans cette logique-là, on voulait faire la Coupe de France en province et Lyon était quand même le deuxième grand pôle, la deuxième grande ville de France. Voilà, c'est tout naturel.
D'accord. Bon, je vais revenir encore un peu en arrière. On descend là en termes de date.
On est en 2004 là quand même. Non, tu veux retourner
en 2003? Non, je voudrais parler de la LA7 puisqu'on n'en a pas parlé. On est en 2003 là.
2003,
je voulais revenir en 2002, la LA7. Ça a été quand même le dernier gros événement LAN de Ligue Arena donc à l'époque.
Mais de France aussi.
De France. Ça s'est passé aux grandes halles de la Villette.
À la grande halle
de la Villette, c'est ça, je me trompe pas. Et il y avait quand même 1500 joueurs à l'époque.
Il y avait 1200 PC en réseau, 1500 joueurs si on compte les joueurs qui sont venus pour jouer sur des tournois des PC fournis.
Et alors justement, cet événement, donc, organisé, c'était quand même l'un des plus gros événements, si ce n'est le plus gros événement français. Ouais. Comment ça s'est organisé et puis comment ça s'est passé sur place? Les souvenirs, les bons, les mauvais?
Ah, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Ça s'est produit vraiment dans la douleur. Mm-hmm. C'est-à-dire que, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Aujourd'hui, tout va bien. On fait des beaux événements, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a dû tout négocier, mais à un point que t'imagines pas pour que les choses aient lieu et qu'elles se passent quand même. C'est-à-dire que on n'a pas eu ce qu'on voulait en termes de service de la part de nos partenaires, en termes de serveurs. C'est-à-dire qu'on devait avoir des serveurs, on les a pas eu. On a dû louer du matériel 48 heures avant l'événement, du matériel qui n'était pas celui qu'on avait loué pour l'hébergement des serveurs. Donc tout ce qui ensuite a conditionné le déploiement des serveurs logiques a été extrêmement difficile. Peut-être que Aurélien pourra en parler. Tout ça juste pour un peu expliquer les problèmes qu'il y a eu autour des tournois Counter-Strike qui ont été très très difficiles pour nous à gérer.
C'est un peu le gros point noir.
Qui ont vraiment meurtri l'événement et meurtri les joueurs à ce moment-là. Et qui ont complètement d'ailleurs étouffé le magnifique tournoi Quake en TDM qu'il y a eu.
C'était
le plus grand tournoi du monde jamais organisé avec des équipes venant du monde entier.
Il y avait
avec des matchs
américains,
sur scène de folie et avec des pings de 4. C'est-à-dire que toute une partie de l'événement a été meurtrie sur le déploiement des serveurs CS qui ont ralenti énormément le déroulement de la compétition sur un tournoi de 128 teams. Des choses qui n'ont jamais été refaites. Et à côté, un magnifique tournoi. Je ne sais plus d'ailleurs tous les tournois qu'il y avait, mais il y en a eu énormément qui se sont très bien déroulés. Donc on a beaucoup souffert
du Rocket Arena.
Moi je trouve que derrière et polémiquer et tout, mais ça a été super dur à tenir, vraiment très très dur à tenir. Et ça aurait pu se crasher comme de nombreux événements se sont crashés, et on a quand même réussi à aller au bout, à payer les prize money et à faire que les étrangers qui sont venus finalement en partent avec le souvenir d'avoir été le premier grand événement de gaming avec une scène avec près de 1200 personnes assis pour les finales. Tout ça, je pense que ça restera, mais on sait à quel point c'est difficile d'organiser une LAN party. Et je pense que ça nous a servi de leçon dont on se remémore encore la douleur aujourd'hui dans la préparation de l'SWC.
D'accord. Moi, je le trouve très dur dans ce qu'il vient de dire Matt dans ce cas-là, parce que moi, l'avis qu'il y avait, puisque j'étais spectateur à l'époque, c'était vraiment... la scène et l'apparition, surtout le tournoi Quake 3 qui avait été vraiment la claque atomique.
Et c'est vrai qu'on se souvient tous de BDS qui sort Lagarena avec son le logo qu'il avait détourné, qu'il hurlait parce que son serveur CS ne touchait pas, qu'il y avait 62 pignons à la voile, etc. Mais c'était une pointe. Genre, c'est vrai qu'on se souvient quand même la zone des joueurs de CS mais, qui était non, immense. Quoi. C'était moi, impressionnant.
Je refuse, quoi. Je refuse pas du tout la critique hein, et j'aime bien les reviews assez, assez claires et honnêtes. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu sur la LAN Arena. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être qu'on peut demander à Sylvain pourquoi. Mais il n'y en a pas eu parce que je crois que les gens, ça parle, tu vois, dans ces moments-là. Je crois que les gens qui y étaient ont vu qu'on était de bonne foi dans la production. C'est-à-dire que vraiment, on a fait le maximum d'efforts pour que les choses se passent bien. On a voulu tout gérer et pas saquer un tournoi au détriment d'un autre. Et ça, je pense que ça a été senti par tous les gens qui étaient là. Mais du regard extérieur, il y a plein de gens qui se disent que finalement, voilà, les serveurs laguaient et tout. Il y a eu une polémique à l'extérieur de l'événement qui a peut-être pas eu à l'intérieur, où les choses se sont quand même déroulées malgré tout. Et je crois que ça a quand même été une vraie leçon pour nous. Hein. Mais nous, on est rarement contents de ce qu'on fait hein, aussi. Hein.
C'est
on regarde toujours les défauts parce qu'on a envie que tout soit parfait.
On voit que les défauts, tu sais.
C'est sûr, si on se dit qu'on est toujours les meilleurs en premier, après on s'arrête. Hein.
On a envie que ce soit
parfait.
Ouais, par rapport au serveur, en fait, on a eu des serveurs qui n'étaient pas du tout conformes à ce qu'on avait eu en amont pour la préparation du système de déploiement. Et avec Flusher, que certains connaissent certainement, on a tout essayé. Quoi. On a installé les serveurs sous 4 ou 5 OS différents. On a recodé une partie du système de déploiement à chaud. Il n'y avait vraiment rien à faire. C'était une incompatibilité matérielle avec les binaires des serveurs. Donc vraiment, il n'y avait absolument rien à faire. Et c'était des paramètres aussi qui n'étaient pas connus à l'époque, qui entraient en conflit avec une certaine partie du système. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas spécialement intéressant, mais moi je me souviens d'avoir dormi 6 heures en 4 nuits, d'avoir vu les gens vraiment au fond d'eux-mêmes, et ça a été très 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 difficile.
Ouais, ça a été très dur. Mais à côté de ça, c'est vrai que un événement comme ça, ça se résume pas non plus qu'à une performance technologique liée à un réseau et à des serveurs qui touchent bien. C'est-à-dire que sur le plan logistique, ça a quand même été une aventure extraordinaire. Sur le plan humain, avec tous les admins qui étaient là, toutes les associations de France étaient là. Ça a vraiment été quelque chose de très très fédérateur, la LAN Arena 7. Ça a été vraiment jusqu'à aujourd'hui la plus grande LAN party jamais organisée en France. Depuis en Europe, il y en a eu d'autres, hein, beaucoup en Scandinavie, en Espagne, qui ont agrégé beaucoup plus de joueurs, mais avec à la fois avec les moyens technologiques d'aujourd'hui qui sont complètement différents, avec un support des sponsors qui est aujourd'hui complètement différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un Intel, Nvidia ne s'aventure pas dans des événements tant qu'il n'y a pas la certitude d'avoir un certain nombre de garanties sur la technologie, alors qu'à l'époque tout ça, ça n'existait pas, c'est-à-dire que on a vraiment défriché le terrain et on a beaucoup appris avec cet événement. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin, le dimanche soir, toutes les assos sont un peu restées. On a fait une grande fête où on a lâché la pression. Et je peux t'assurer que je crois que j'ai jamais autant lâché la pression que ce soir-là, quoi.
Il y en avait partout.
C'est vraiment, ça a été super dur.
Très bien. Oui. Puis il faut aussi préciser que la LA7, ça a été la première LAN couverte en France par une web radio, donc en l'occurrence Netgy Radio, première.
C'est ça.
Grâce, entre autres.
T'avais à l'accord
à de Ligue 1.
Oui, moi, tout de suite, j'ai vu en toi le Philippe Bouvard de demain.
Okay. Merci, ça me touche.
Mais j'espère que tu t'en souviendras.
Oh, ça part mal.
On réglera ça juste après l'émission.
Porco, c'était Sim.
Alors justement, voilà.
C'était Sim.
À l'époque, il y avait
salut,
aussi,
Sim.
Il y avait aussi Porco.
Bonsoir.
Bonsoir, Porco. Comment ça va?
Mal.
Oui, alors il paraît que tu es un peu malade.
Ouais, mais ça va un peu mieux, là.
Ça, ça fait plaisir.
Le petit café, je vais apporter.
Le petit café chaud, ça va bien. Ça Mathieu, sers-toi, c'est fait pour.
Non, merci, j'en ai pris avant de venir.
Attends, pas trop de café alors.
Il est surtout dégueulasse ce café en fait.
Aussi, mais on peut le dire, hein, il vient du Carrefour de Poitiers et il doit avoir un peu 10 mois.
Alors donc, on y reviendra, mais c'est quand même le café qu'on a servi à peu près tous les admins de la Coupe de France 2005. On y reviendra juste après. Donc voilà, bon, on va passer
et
une...
le fabuleux tournoi de TDM de la LA7, on le doit à Olivier qui est là, qui a su... ramener 04 en France, le clan 519, faire venir tous les clans suédois.
Comment tu as fait
les Icecrumbers,
tout ça, c'est lui.
Ça, c'était génial. Hein. Ils se sont pris une claque.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, il y avait des problèmes de moyens, c'est les gens n'étaient pas sponsorisés comme de nos jours. Et il y a eu un vrai mouvement de solidarité de la part de joueurs américains qui ont, même d'autres joueurs qu'américains, qui ont aidé au financement du voyage des 519 pour qu'ils puissent venir en France.
Ouais,
pour qu'ils
une cotisation jouer. Online.
Une cotisation, une pétition, cotisation pour il y a des gens voyager. Qui donnaient des $100, $50 pour essayer de financer le voyage de ces quatre joueurs. Et parce que tout le monde avait envie, enfin toute la communauté avait envie de voir la confrontation entre les équipes américaines et les équipes européennes à l'époque qui n'avait jamais été faite. Et du coup, il y a cet élan communautaire qui était un peu un gros symbole pour la communauté de Quake à l'époque. Et qui, malgré le fait que les 519 finalement ils sont pas allés très très loin, tout le monde était quand même ravi qu'ils soient là. Enfin, c'était un truc inoubliable.
Le match Saint-Germain 04 sur la scène le soir avec la première intervention de l'âme. Moi j'ai encore les vidéos, je les regarde de temps en temps et tout.
Est-ce qu'un jour on aura le DVD
Non, mais j'ai la vidéo de la soirée du dimanche aussi. C'est des trucs. Mais
je suis parti un petit peu avant, malheureusement. Ça venait de commencer.
Mémorable.
J'avais 15 ans à l'époque.
C'est des super moments.
Toute ressemblance avec des personnes ayant existé serait fortuite.
Bien sûr. Hein.
Non, mais moi je repense à toute l'équipe de Nexen qui était là, toute l'équipe qui est devenue Réseau qui était là, toute l'équipe de GA qui était là, tous les fondateurs de Futuroland qui étaient là. Enfin, je veux dire, ça a été un événement qu'on a tous fait, tous ensemble. Et voilà, et j'espère. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais qu'on refera un jour ce type d'événement. Tous ensemble, encore mieux.
Ouh là là ! Ah non, ça change ! L'Anarena, l'Anarena Next Gen ou l'Anarena
Next Gen ? L'Anarena is not dead.
Next Gen.
L'Anarena is not dead.
L'Anarena 360.
Attends, ça serait pas mal, ça. Préparez-vous, ça va revenir. Bon. On annonce
avec 2000 Xbox.
2000 Xbox linkés.
Wouh! Par contre, faut trop jouer à
Halo 2.
Chaud,
ouais,
hein.
Trop bien. Ouh, il fait chaud. Le super transformateur, c'est trop bien.
On passe sur une troisième discipline. Donc, on a déjà annoncé CS Homme, CS Fille. On le rappelle en 1.6 pour tous les gens qui nous ont rejoints. Quelle sera la troisième discipline à être annoncée et qui aura l'honneur de l'annoncer autour de cette table?
Olivier, il en a une, je pense.
Olivier a une.
Bah, forcément.
Alors Olivier, quel sera
Olivier.
Allez.
Tu ne peux pas tout avoir, bon, Mathieu.
Non, parle bon, pas.
D'accord, allez, vas-y.
Il fallait bien qu'on en parle un tôt ou tard.
Bon alors Olivier, troisième discipline annoncée de la Coupe du Monde 2006.
Je pense que c'est pas trop une surprise si on annonce le fait qu'il y aura Quake 4 en discipline. Vu qu'on a quand même continué à faire du Quake 3 pendant des années, alors que personne n'y croyait.
On a quand même plus personne.
Bah oui, c'est ça. Donc l'avantage, on fait ce qu'on veut.
Du coup, ça paraissait naturel, surtout vu l'engouement qu'il y a derrière le jeu derrière, le potentiel. Le fait qu'en plus, il y ait plusieurs communautés qui sont en train de se croiser, ce qui va amener sans doute beaucoup de choses intéressantes. Aussi bien la communauté du T, de Painkiller et de Quake 3, les anciens joueurs de Quake 3 qui reviennent jouer à Quake 4. Donc je pense que ça va être une assez bonne discipline.
D'accord. C'est vrai que l'année dernière, bon, on le dira un petit peu après.
Et à ce sujet, oui. On a un mail fantastique de Todd Hollandshead, qui est le CEO d'ID Software,
oui.
Qui nous donne sa bénédiction pour la réussite du plus grand tournoi Quake 4 du monde.
Ah, très bien.
Après la QuakeCon.
Évidemment. D'abord les événements internes.
Non, mais ça aussi, c'est des trucs qui nous font rêver, quoi. Quand ID Software t'écrit et te dit « You have my blessing », c'est fabuleux.
Il n'y a pas une demande de chèque après sur la suite du mail?
Non.
Bon, ça va alors, principal. Bon, on est en 2003, on va passer en 2004.
T'as pas dit combien il y avait de sous à Quake 4 hein.
Ah oui, pardon, autant pour moi.
Combien de brousouf?
Il n'y en a pas.
Il n'y a pas, donc il y aura personne.
Fallait cibler le sujet,
ça
Thomas.
Ça pour le sport.
Alors Quake 4.
Donc c'était pour le faire.
Il y a
hein.
4 dollars.
4 dollars pour le premier.
Non, en fait... Petit changement par rapport à l'année précédente, Quake 3 qui était considéré comme un master, et non pas comme une discipline officielle. Là, Quake 4 passe définitivement en statut de discipline officielle et donc aura 40 000 dollars à gagner.
En individuel.
C'est en individuel, ouais.
Très bien. Ça en fait des sous. Ça en fait des dollars. En plus, c'est pas terrible, le cours du dollar remonte, là. Hein.
Pour vous. Pas terrible pour qui?
T'es au courant.
Pour Adrien, voilà, on va dire ça comme ça. Bon. On va passer donc à 2004. C'était l'année qui a vécu, qui a eu donc la deuxième édition de la Coupe de France, deuxième édition de la Coupe du Monde.
Il y a eu SWC 2003. Vous en avez parlé déjà?
Oui. On l'a fait en fait pendant que t'étais pas là.
D'accord.
On a commencé par là.
Pas mal. Hein.
On a fait le tour. Oui. Mais si tu as, on va te demander peut-être sur 2003 ton meilleur souvenir et puis ton moins bon souvenir. Ah oui.
C'est dur.
Eh oui, c'est dur. Tout le monde a réussi bien.
Et rapidement.
Oui.
C'est ça qui était fort.
Il y a l'Orca, il y a MTWA, ça marche pas.
ça, c'est mon moins bon souvenir. Ah putain, ouais. Ah ouais. Le match d'ouverture.
Ouais.
Bon, je dirais pas, mais Et d'ailleurs, enfin, si je peux le dire, les plasmas qui n'ont pas fonctionné sur le match d'ouverture.
Mais ils l'ont déjà dit avant. Ah,
non, mais parce que ça, si tu veux, c'était énorme. Non, mais il y a une. On le savait, quoi. On s'est fait avoir et le problème a été réglé dans la nuit. On avait pensé à un dispositif que d'ailleurs personne n'a jamais pu remettre en place parce que c'est un dispositif qui est très compliqué malgré les apparences pour avoir du direct sur des plasmas et qui est une conversion de fréquence et une conversion de résolution.
Faut dire
qu'il y a des boîtiers très spéciaux pour faire ces conversions. On avait loué tous les boîtiers et les boîtiers sont pas arrivés et le mec à qui on les a loués nous l'avait pas dit.
D'accord.
Et si tu veux, il a fallu qu'on soulève la nappe et qu'on aille vérifier nous-mêmes les installations pour qu'on s'en aperçoive.
D'accord.
Donc t'imagines que là, t'es assez vénère quand même.
Donc c'est pour expliquer, les plasmas ne fonctionnent qu'en 60 Hz. Évidemment.
Oui, ils peuvent encaisser en entrée que du 60 Hz.
Évidemment, les joueurs voulaient au moins du 100 Hz.
Bien sûr.
Donc les plasmas ne fonctionnaient
pas. Et ça, on l'avait complètement anticipé.
Mais c'est pour ça qu'on avait demandé ces boîtiers.
Et on avait demandé ces boîtiers. Et depuis d'ailleurs, on les a toujours. Et ça vaut très cher à louer.
Très bien. Donc on peut passer en 2004 ?
Ouais. Son meilleur moment.
Mon meilleur moment.
Ah oui.
On s'en fout ton meilleur moment.
C'est quand t'as vu Maillard.
Tu l'as vu arriver et oh.
Mon meilleur moment, c'est à un moment donné. Tu sais, quand t'es la tête dans le guidon et tout, tu vois rien, quoi. Tu passes à côté de tout. Peut-être ils l'ont dit, quoi. Quand t'es focus sur ton ACS, tu vois pas ce qui se passe à la scène. Quand t'es à la scène, tu vois pas ce qui se passe ailleurs et tout. Ça, c'est terrible. Mais à un moment donné, je me suis reposé et tout. Moi, j'avais un peu la responsabilité de la scène. Et je suis monté dans les loges de commentateurs. On avait mis deux streams vidéo et les commentateurs anglais et français en direct. Je suis monté, je me suis assis et j'ai écouté les commentaires en anglais et j'ai regardé le stream et je me suis dit putain ça déchire.
Tu vois. Prise de conscience.
Et, ah ouais. Et là j'ai vu qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui suivaient en direct et qui avaient les images de la scène, qui avaient notre réalisation, qui avaient le 4 tiers, qui avaient les pulsations cardiaques, qui avaient tout ça et qui avaient les mecs qui avaient un flow magnifique en anglais. C'était terrible quoi. C'est exactement ce qu'on rêvait de faire.
Les pulsations cardiaques, ça n'a pas été repris les années suivantes.
C'est très chiant à mettre en place en fait. Ouais. Mais là, ça va être beaucoup plus facile, j'espère cette année, parce que il y a un système qui est sorti entre un équipementier sportif, je crois que c'est Adidas et Pulsar qui fabriquent la plupart des cardiofréquencemètres en France, qui est un vêtement en fait que t'enfiles, un maillot que t'enfiles et qui capte automatiquement tes pulsations. T'es plus obligé de mettre un lacet, d'avoir un. Nous, on avait fixé quand même sous la table les capteurs infrarouges d'une montre. On avait démonté les mécanismes pour les serrer sur la poitrine des joueurs. Il fallait qu'ils soient en face. En fait, tout était super à l'arrache. Et là, il y a un vêtement qui vient de sortir pour les sportifs de haut niveau. En fait, t'enfiles le t-shirt et directement le t-shirt capte tes pulsations cardiaques.
D'accord.
Et les envoie en infrarouge, en Bluetooth. Et donc là, à mon avis, il y a un truc énorme à faire pour la prochaine.
Donc c'est fini les maillots avec les noms des sponsors. Maintenant, ce sera le.
Ah bah ça, on peut en parler si tu veux. Ça c'est. Mais il va y avoir un débat cette année. Mm-hmm. Je trouve que ce qu'a fait World Cyber Game est scandaleux.
C'est-à-dire
qu'ils ont interdit le sponsoring sur les équipes des joueurs à la grande finale World Cyber Game.
Le maillot
et à l'opposé, c'est très très difficile d'ailleurs pour des gens comme nous, c'est-à-dire des organisateurs, des producteurs d'événements, d'aller chercher des budgets colossaux pour produire des événements et qu'une équipe arrive pour 3000 euros et trois cartes mères ou trois shuttles avec un énorme sponsor sur la scène, alors que nous on paye très cher des redevances pour que les marques apparaissent à la télé et que eux rentrent dans l'événement sans rien payer. Donc entre ça et le fait de complètement les interdire, il y a un juste milieu à trouver, il y a une normalisation à trouver pour que les joueurs puissent faire exister leurs sponsors, mais que ça rentre pas en conflit avec les sponsors de l'événement. World Cyber Game a complètement tranché en interdisant les sponsors des joueurs. Nous, on fera pas ça, mais on va essayer de trouver un juste milieu quand même.
On revient juste un moment sur Quake 4, on nous demande si c'est sur invitation ou sur qualification.
Alors, vas-y, Olivier.
Bah, vu que ça devient une discipline officielle, hein, du coup, ça sera sur qualification.
D'accord.
Cette année sont tous des disciplines officielles.
Est-ce qu'il y aura des masters en plus ?
Non.
D'accord.
Cette notion n'existe plus.
Donc ce ne sont plus.
D'ailleurs, elle n'était pas très évidente l'année dernière. On part du principe que cette année il y aura des qualifications sur tous les jeux et qu'il y aura peut-être potentiellement aussi des repêchages type dossier de candidature peut-être pour un ou deux slots pour tous les jeux aussi.
D'accord,
mais ça, ce sera défini dans les mois qui viennent. Hein. Là, Greg est en train de voir avec tous les pays les slots, les attributions, les moyens qu'ont les partenaires dans les pays pour faire venir des joueurs. Et à la fin, on décidera de la politique définitive.
On arrive en 2004. Je vais y arriver. 2004, donc, deuxième édition. La Coupe de France se passe cette fois-ci
au Louvre.
C'est vrai. C'est au Louvre ?
Eh oui, c'était au Louvre.
J'avais un doute.
Tu te souviens plus du frigo ?
Ah oui, c'est vrai.
Ah, non, ça c'est un private pour nous. C'est là où on était, c'était le frigo.
C'est vrai.
C'était sympa.
La Coupe du Monde
carré.
Se passe à l'intérieur du parc du Futuroscope. Yep.
Donc 2004 Futuroscope.
C'était un petit peu encore une étape en avant. Alors cette Coupe de France, comment ça s'est passé justement revenir dans la capitale, investir la salle du Carrousel du Louvre, et puis organiser à nouveau une finale nationale.
Bah moi je veux pas monopoliser le micro, mais juste rapidement, c'est, je sais pas si oui tu t'es forcément au courant parce que tu t'es installé comme nous au moment du montage. On a eu les lieux le jour de l'événement.
12 heures avant.
Voilà, c'est tout quoi. C'est-à-dire que 12 heures avant l'ouverture, on est rentré dans les lieux le samedi de l'ouverture de l'événement, donc on a tout monté en 6 heures. Voilà.
Je pense que c'est le plus mauvais souvenir. S'il fallait faire bon souvenir, mauvais souvenir pour aller vite, je pense que pour tout le monde, c'est vraiment le truc hyper hardcore.
C'était super dur.
En plus de ça, les lignes internet n'étaient pas montées quand on est arrivé à l'heure.
Mais encore une fois, c'est l'autocritique, tu vois. Parce que tout ça, ça s'est pas vu.
Ça s'est pas vu. Ça, pour ceux qui n'étaient pas du tout dans l'événement, moi, je me souviens, c'était le truc le plus impressionnant. C'est qu'on était tous dans la porte et je me suis dit, non, mais on attend que les vigiles arrivent. En fait, non, c'était juste l'ouverture des portes pour que tout le monde puisse rentrer. Mais vraiment, tout le monde. C'était la grosse claque.
Au niveau du samedi, de l'attente des joueurs, je sais que les joueurs ont pas mal attendu quand même avant de rentrer. Donc
ils devaient rentrer en début d'après-midi. Il y a eu un tout petit peu d'attente à cause d'un pont qui se levait pas, où il y avait une connerie comme ça, ou un projo qui était pas.
C'est pas ça. C'est qu'on voulait les faire rentrer à 11h. Je me souviens, on voulait les faire rentrer à 11h pour qu'ils puissent s'installer avant, qu'on fasse les briefings et tout. Les compètes, de toute façon, commençaient, je crois, vers 14h, 15h. Enfin, en tout cas, les premiers warm-up vers 14h. Et ils sont rentrés vers 13h, en gros. Mais de toute façon, dans notre planning, les tournois ont commencé à l'heure où ils devaient commencer. Il n'y a pas eu de retard.
Parce qu'il y avait le match d'ouverture entre GG et je ne sais plus quelle équipe, le champion défendant.
Il y avait ce tirage aussi avant, tournoi pour GG. Je me souviens bien.
Oh là là.
Ouais, c'était dur. Ils ont eu le jour 100. Moi, le bon souvenir que je garde, c'est la finale totalement dramatique à Counter-Strike entre AT et
SP
Team, avec la remontée d'SP, les multiples prolongations et AT qui gagne enfin quelque chose.
Avec 3 kills de match au
les 5 5 kills.
Oui,
5 au Glock. Deux matchs, ça c'était vraiment un grand.
Et il y avait aussi la finale War 3 aussi qui avait été un grand moment. C'était beaucoup plus spécialisé, il fallait vraiment être beaucoup plus connaisseur pour voir les trucs. Mais la finale War 3 de la Coupe de France, je crois que c'est un des plus beaux matchs franco-français qu'on ait eu aujourd'hui. Quoi.
Entre Antoine et Todd.
Ouais.
Fatsé. Les
showcases de
Ouais, c'était. Non, c'était. La Coupe de France 2004, ça a été vraiment. Pour Paris, ça a été le retour de grosse LAN à Paris. C'était vraiment le côté chaud à Paris. Au Louvre.
Le tournoi CS totalement dramatique aussi dans les poules, ce système de double poule, les draws, c'était super super dur. C'était un des tournois les plus difficiles. Au niveau intensité de compétition et nerveusement pour les joueurs.
D'accord. Donc on a eu les qualifiés et puis ils ont pu se rendre à la Coupe du Monde qui se déroulait sur la même semaine, donc première semaine de juillet, cette fois-ci au parc du Futuroscope, à l'intérieur du parc du Futuroscope. Est-ce que c'était prévu ça dès le début d'investir le parc au bout d'un moment, ou alors est-ce que ça a été vraiment une idée qui est venue comme ça?
Non, c'était pas prévu dès le début. Ça a été on va d'abord motivé par le parc du Futuroscope qui a vu ce qui se passait au Palais des Congrès, qui se sont dit putain mais c'est génial, il y a des jeunes du monde entier. C'est dommage qu'ils soient relégués à 500 mètres de l'entrée du parc et qu'ils profitent pas des attractions, qu'il n'y ait pas plus d'évolution, d'échange dans le trafic. Et nous, on s'est dit qu'en étant dans le parc, on allait toucher une audience un peu différente, quoi. Déjà, le parc du Futuroscope, c'est 10 000 visiteurs par jour. À cette période de l'année, être exposé à 10 000 visiteurs, c'est super important pour un événement. Et puis nous, ça nous permettait de faire un truc complètement délirant, qui était de se dire, voilà, on a le parc du Futuroscope, qui est quand même un truc complètement, original, quoi, de par l'architecture des bâtiments, le concept même, qui est unique mondialement, et se dire qu'on a accès à ce parc et on peut choisir des pavillons et les transformer en zone de jeu ouverte au public. Alors, ce qu'on avait fait pour Warcraft, c'était génial. Après, on s'est retrouvé face à la réalité du parc, qui est de se dire, bon, il nous faut du mètre carré au sol plat, parce que les pavillons, t'as des escaliers, t'as plein de trucs et tout.
Il faut
du mètre carré plat. Alors, merde, alors, par contre, il n'y en a pas. Alors tout a été envisagé, mettre des tentes, des trucs et tout, et du coup on a fermé les restaurants et puis on a installé les grosses zones de jeu dans les restaurants. On n'avait pas du tout anticipé à quel point ce serait physique.
Les distances.
À quel point ce serait physique. Et pour les joueurs et pour le staff, mais encore plus pour le staff.
Il y a eu un moment une idée.
J'ai perdu 4 kilos pendant les vacances.
Il y a eu une idée de trottinette électrique ou de Segway.
Ouais. Alors trottinette électrique, ça a été finalement interdit. Ça, on devait vraiment le faire, quoi. Mais ça a été interdit. Tu sais, par les commissions et tout ça. Les Segway, il y en avait pas assez. Si c'était réservé au personnel du parc, enfin bon.
Moi, j'en ai fait. J'ai soudoyé une hôtesse.
Oui, bon, tu as pas utilisé.
Avec un ami, c'est l'AF.
On a pensé l'hélicoptère aussi, mais bon, on pouvait pas.
Non, mais ce qui était génial au parc du Futuroscope, c'était l'aventure d'être tous ensemble, quand même, le soir dans les hôtels, les restos, les soirées et tout. Ça, c'est quand même un truc qui est génial, quoi.
Sauf que la météo n'était pas tout à fait au rendez-vous.
Par rapport à 2003,
qu'on avait. Ah oui, la scène extérieure en 2004.
La météo était pas.
Pareil, ça, on le refera pas, par exemple.
Ça, c'était malheureux. Non, en 2004, ce qui était fort, c'était le parc. Le point noir, c'était le mauvais temps. Qui a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance. Il y a eu 2 jours de pluie. Ouais, bon, d'un autre côté,
il faisait froid. Il a fait 10 degrés.
Froid. Ouais, on a eu la pluie. L'avantage, c'est qu'on a esquivé la Star Academy et notre ami.
Oui, annulé.
Ouais, qui est carrément annulé.
Vent, enfin, un truc, mais c'est.
La scène qui s'envolait, en fait, c'était un grandiose. Non, les kilomètres. Tous ceux qui ont fait le tournoi 2004 dans le pavillon Counter-Strike.
Qui était à l'extrémité du parc, faut le dire.
On était isolé.
Ça a été le Scholl, on peut le dire, le sponsor de Smell a bien fonctionné. Ouais. Non, c'était ça qui était fort. Et sinon, l'ambiance dans le parc, le soir, dans les villages e-sport, c'était quelque chose d'impressionnant, quoi. Le melting pot des cultures, c'était peut-être le retour de 2003.
La salle aussi, elle était super chaude. Il y avait une super ambiance à la scène, tu vois, sur les finales.
Ouais, c'était une vraie arène.
Blindé de monde. D'ailleurs, vous avez même dû improviser le commentaire en live sur la scène extérieure parce qu'on pouvait pas faire rentrer tout le monde dans la scène couverte. Non, il y avait un truc magique.
Sylvain, tu voulais dire quelque chose ?
Juste peut-être du point de vue de la presse, c'est vrai que c'était une année très très difficile pour être sur tous les pavillons en même temps, pour essayer de couvrir tous les tournois en même temps.
Alors on bénit le Wi-Fi quand même ?
Oui. Il y avait le Wi-Fi qui était là et Mathieu Dallemont et son staff avaient bien voulu qu'on mette des rédacteurs un petit peu dans tous les pôles. Un petit peu dans tous les pôles où il y avait des tournois pour pas avoir à faire des déplacements de la salle de presse à chaque fois.
C'est vrai, qui était la salle de presse encore à l'autre bout, à côté de la scène. Donc
c'était sympa. Moi, je me souviens, je bossais à l'époque pour la presse et Counter-Strike était malheureusement à l'autre bout du parc, de la salle presse. Donc j'ai fait la première journée quand même, les allers-retours. Et après, j'ai dit, ça va pas être possible pendant 5 jours quand même. Et donc après, on a réussi à squatter une place et tout. C'était un grand moment. Avec Midwest, c'était.
Première journée avec Factory SK.
Ouais.
Ça aussi, c'est un grand
moment. Très grand match.
Très grand moment, ouais.
Et voilà.
Justement, vos meilleurs, bons, mauvais moments de cet événement. On a dit que le mauvais moment, c'était un petit peu le problème technique.
Ah, moi, c'était la victoire des Virtus Pro sur la scène couverte, sur SK.
Sur SK. Mais oui, tu te souviens pas, on était ensemble pour regarder le match.
Et si tu veux, quand le rideau s'est fermé et qu'il y avait SK qui était abattu, quoi. C'était la grande époque de SK. Ils avaient jamais perdu. Un an et demi.
C'est le seul tournoi qu'ils ont perdu cette année-là.
Putain, mais c'était énorme, quoi. Tu sentais la lourdeur de. Moi, j'osais, tu vois, j'étais. Il y avait eu un tel frisson dans la salle. C'était du délire, hein, franchement. C'était du délire dans la salle avec les Russes. Et eux, ils étaient morts debout, quoi. Morts debout. Et nous, on était derrière. Ils voulaient plus sortir. Ils se levaient pas. Ouais. Putain, mais ça, c'est les trucs que tu vis en backstage avec des super grands artistes ou quand tu rentres dans les vestiaires de foot, quoi. C'est des trucs uniques.
Et le soir même, les SK, parce que tous les soirs, faut savoir, c'est qu'il y avait des soirées qui étaient organisées, qui étaient un peu spontanées, et puis sur une soirée qui était organisée tout le temps. Les SK, c'était les seuls qui ont passé leur soirée à compter les bières. C'était vraiment impressionnant. Ouais. BDS, il avait les larmes aux yeux, quoi. Ouais. Je sais pas si c'était
C'est pour ça qu'ils sont très forts, et c'est pour ça que BDS est un mec extraordinaire. C'est parce que t'apprends dans la défaite, mais 10 fois plus que dans la victoire. Et ce jour-là, t'as senti à quel point ils ont. Je pense que c'est ce jour-là qu'ils sont devenus une écurie professionnelle, qui d'ailleurs aujourd'hui est la plus grande écurie du monde, quoi. Parce que ils ont compris à quel point la défaite est douloureuse. Et je crois que GG le sait, et c'est la seule équipe en France qui le sait parce qu'ils sont montés très haut, ils sont tombés, ils sont revenus.
C'est très philosophique ce soir, c'est très profond, c'est très bien. On va annoncer alors une quatrième discipline pour on va dire changer un petit peu de sujet. Alors c'est le tour de qui?
En fait, Greg m'a piqué ma discipline, donc.
Ah oui. Oh, c'est pas très gentil,
pas
ça.
Sympa,
pas
hein.
sympa. Hein.
Alors, on récapitule. On a eu CS 1.6 hommes, CS 1.6 femmes, Quake 4 qui nous a été annoncé par Olivier.
Bon, finalement, on peut parler de Warcraft peut-être. Hein.
War quoi?
Warcraft 3 ouais. ou Warcraft 2? Non, 2, ça fait un peu loin quand même.
Non, c'est un peu vieux. On se dit qu'on allait mettre le 3 quand même.
The Frozen Throne, comme d'habitude.
Bah oui.
Donc, il est encore là. Moi, j'ai eu des doutes, très honnêtement, hein, quand je réfléchis aux disciplines. Je me suis dit peut-être qu'ils vont l'enlever, mais non.
Il faut
un RTS, quoi.
Il faut un RTS, et c'est le seul actuel où il y a des vrais joueurs. Et...
Il y a une grosse communauté StarCraft, quand même. Hein. Pas en France, évidemment, mais ailleurs. Donc, non, Warcraft 3 restera. Donc, la quatrième discipline, est-ce que Olivier peut nous annoncer les prize money pour cette.
Le prize money est de
40 000 $.
40 000 $, bravo.
Quelle surprise.
Très bien, on se retrouve juste le prix là. Je pense à 40 000. C'est bien. Donc 40 000 $, donc comme Quake 4 en fait.
Exactement.
Donc les joueurs de Warcraft 3 peuvent se mettre à Quake 4 et inversement, il y a autant à gagner. Très bien, bah, alors on va passer maintenant à 2005, cette année.
On peut faire peut-être une petite pause sur les événements et peut-être interroger nos invités sur leur propre événement.
Ah, c'est vrai. J'ai oublié, mais c'est la surprise que nous a réservé notre ami Rémi. Alors
oh
Rémi,
non. J'ai 10 petites questions à vous poser sur l'Arena en fait.
Ah bah oui, parce qu'après tout, c'est bien de les organiser, mais il faut quand même être un petit peu au courant de ce qui se passe.
Pas Rémi.
Alors on s'est dit, bon, on a l'équipe de Game Service, bon, à part Adrien qui est excusé, on va vérifier si après tout ils ont un petit peu la culture de tout ce qu'ils ont fait.
Il y a des questions très faciles, des questions très difficiles. Je pose la question, et celui qui a la réponse n'hésite pas.
Voilà. Vous avez un buzzer devant vous.
Non mais en plus, on est les gens qui passons le plus à côté de ce qu'on fait.
C'est clair. Hein.
Et oui, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est très drôle.
Par exemple, quelle LAN Arena proposait un tournoi sur la démo jouable de Quake 3?
Grégorio, buzzer.
3 et 4 en fait.
Ah,
non, 3.
Y a un petit doute.
C'est 3.
4, il y avait déjà
3, c'est la démo. 4, c'était la finale.
Ariman dit 3.
4, c'est déjà sorti.
C'est la 3, ouais, tout à fait.
Bravo. Bien joué. Réponse de Grégory.
Il jouait à l'époque.
Bah moi aussi.
C'est lui qui l'a organisé. C'est Olivier qui l'a organisé.
Bon, il y en a bien sur les 6 qui s'en souvient quand même. Hein.
C'est un peu normal.
Je me souviens, j'ai battu Nicodémus.
Lors de quel événement pouvait-on admirer des jeunes filles en body au premier étage?
Ah, ça c'est compliqué.
Oh, ça se complique là.
Il faut deux étages déjà.
Déjà.
C'est forcément.
Attention. Moi personnellement, on n'a pas la réponse. Il y a que Rémi.
Non, c'est là.
Qu'est-ce que t'appelles un body?
Par exemple,
un petit juste corps.
Les petites indices, c'était des danseuses.
Des petites danseuses.
Wow.
Des danseuses au premier étage.
Oui.
Je n'ai aucune idée.
En fait, c'est ça, le body.
Ah oui. C'était quand on était dans le gymnase là.
Aurélien a une idée.
Elle a deux.
C'est la 2, ouais.
Ah.
LAN Arena 2.
Qu'est-ce qui s'est passé à LAN Arena 2?
Alors, j'ai eu, grâce à mon ami Google, plusieurs reports de cette LAN et il y en avait plusieurs qui recoupaient sur trop bien, on a pu mater des filles au premier étage.
C'est trop bien. Vraiment, un des points forts de cette LAN 2. Et pourquoi ça a été oublié sur les LAN suivantes? Pourquoi ça n'a pas été.
Non, mais c'était
trop
pas
cher.
C'était pas la LAN.
C'était le cadeau surprise.
C'était le bonus.
Il suffit de mettre ton assiette fille en hauteur, puis voilà.
Ping-pong, mais tout le monde.
Question très compliquée, combien y a-t-il eu de LAN Arena au total?
Oh là, au moins 30.
Est-ce qu'il y a un piège, Jean-Pierre Rémy?
Ouais, il y a forcément un piège. Parce
non, il n'y a pas
de piège. Bah si, il y a tellement de LAN qui se sont appelés LAN Arena en France.
Tu vas plus loin que Porco, là, je crois.
Ouais,
non, mon esprit est trop limité aujourd'hui.
Ah, bah 7 alors.
Bah, 7. Non,
7.
Quelle LAN Arena s'est déroulée au mois d'avril, les 7, 8 et 9 précisément?
La 4.
Ouais.
Sylvain?
La 4.
La 4 aussi, ouais. Ah, c'est bon.
Mathieu, ne lève pas le doigt avant de répondre.
Ah, pardon.
Quelle LAN Arena a eu le droit.
Vas-y.
Quelle LAN Arena a eu le droit à une pétition pour les changements de date?
Oh là là, c'était pas LA5.
C'est recherché toutes ces questions quand même. Hein.
Non, LA6. C'était LA6.
Qu'est-ce que tu penses, Sylvain?
Si tu veux,
je te vois lever.
La 4 parce qu'il y avait la Gamer Assembly en même temps.
C'est pas LA5?
Olivier?
Je tirais la 4 aussi, ouais.
Mathieu?
4 ou LA6.
Mais il y a une histoire avec Gamer Assembly, je crois.
Non, les dates de la LA6, c'était un autre problème. Non, ouais, la 4.
Non, c'est la 6 où il y a eu une pétition. La 4, ouais. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de date, mais il n'y a pas eu de pétition.
La 6, il y avait une pétition, ouais. Je me souviens.
Non.
C'était l'époque de.
Si, parce que plein de joueurs ne pouvaient pas venir parce que c'était.
Oui, les dates étaient foireuses à cause des examens.
Je pense que du coup.
Oui, ça c'est clair, mais.
Il y avait une pétition.
Ouais, une pétition online.
On a la question numéro combien, très cher Rémi?
1, 2, 3, 4, 5. On a la question 6 maintenant.
Alors, on passe à la question numéro 6.
Vous en avez parlé tout à l'heure. Quelle LAN Arena a eu hérité du doux nom de LAG Arena, du doux surnom de LAG Arena?
Ah, facile, facile. L'A7. C'est la plus simple des questions.
Alors, attention, question L'A7, mathématique. Quelle est la somme théorique des participants au LAN Arena 4 et 7?
Ouh là 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 là. Alors, je pense à 4 x 8 x 12 et j'arrive à.
1600
4 plus 7. 4. Non, pas 1600.
Sylvain dit 1600.
1400.
Je sais pas, il y avait combien là, avec
théorique.
4 il y avait 4
théorique, hein, théorique.
Je sais pas, la 4, il y avait combien? 450 4, 4,
bah, 2000.
4 et 7.
Je vois 1009.
Non, non, 650 et 1200 en réel. Donc 1850 et 850 à la LA5. Donc non. 650 plus la LA7, si tu comptes 1200 ou 1500. Enfin, moi, je compte 1200, ça fait 1850.
Alors, c'était 2100, parce que c'est théorique, donc les chiffres annoncés, donc 1500 joueurs.
Plus
il va te donner le vrai.
Ouais, d'accord.
Donc, c'était 2100.
Question numéro 7.
Question numéro 7. Quel est le seul événement LAN au monde où il n'y a pas eu de gagnant lors du tournoi Counter-Strike?
Elle a 6, connard.
À StarCraft aussi, je crois. Il n'y avait pas un problème aussi à StarCraft? La finale s'est jouée sur le net.
Parce ouais, qu'il parce qu'il devait partir prendre,
parce
son,
qu'il
avion,
ouais. prendre son avion. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé à CS exactement?
Bah, ils ont coupé le courant.
Les ordinateurs ne marchent pas au diesel.
Voilà,
c'est malheureux.
Donc c'était la LA6.
D'ailleurs, en plus, c'était bête parce que la LA6, c'était la première fois où il y avait les joueurs pour la finale, où il y en avait les cornes
ouais,
de brume.
Des
c'était
putains de matchs aussi, qui n'en finissaient pas.
Ça s'arrêtait pas. Je crois que c'était les MTW ou SK allemand.
C'était un gros tournoi.
Tu sais que tout ça, ça nous a appris à notamment sur la politique du double élim, à faire un système où tu sais quand ton tournoi se termine. C'est très compliqué, hein, tout ça.
La finale
ça se termine jamais, ça.
Opposait les SK Red aux GG White.
Ouais, ouais.
Voilà. Et donc,
alors là, je te contredis puisque ce n'est pas SK Red, mais SK tout court. SK Red, c'était à Quake 3. 3.
Ah, bah autant pour moi alors.
Mange.
Donc, un événement la dernière que les SK ont failli gagner.
Ont failli.
Mais ils avaient gagné la 5 de toute façon. Déjà.
Lors de quel événement LAN Arena pouvait-on participer à 6 tournois Quake et 6 tournois Quake 2?
C'était à la LA3.
LA3.
6 dans chaque.
Comment?
Quake et Quake 2, 6 dans chaque.
6 tournois Quake 3, Quake.
Bah 4.
Au total ou 6
dans
chaque?
Non, il y avait 6 tournois dans Quake et 6 tournois dans Quake 2.
Wow, dans une seule LAN?
Ouais.
Ah, putain, il fallait être sportif.
Ça peut être que la 2 ou la 1, mais.
Bah non, la 1 et 2, il n'y avait pas Quake 3 encore à l'époque.
Moi j'étais pas dans la 2.
C'est la 2, ouais.
La 2?
Ouais. Ah, Quake, pas Quake 3. Et en finale, je crois qu'à Quake 2, il y avait eu Dipos contre Den ou un truc comme ça.
Peut-être, ouais, ça, je sais pas.
Histoire de Dipos,
j'ai pas poussé mes recherches.
Aussi, donc j'avais été sorti, je crois, en quart ou un truc comme ça.
Oh.
Et enfin, la meilleure question de tout ce questionnaire, hein. Quelle LAN Arena a marqué la naissance de la web radio francophone la plus complètement belle?
La LA7.
La plus has-been de la planète, t'aurais dû rajouter.
Qui s'est cassé une jambe.
Qui seront fortement difficiles. Hein. Et donc la réponse sera effectivement LA7. Très bien. Bon, bah, le niveau est moyen, mais pas top.
Ça va avec nous, c'est bien. Ils connaissent leur événement. Pas tous, mais.
Pas tous. Il y a quelques petits détails qui n'auraient échappé. C'est pas grave, on aura l'occasion de le refaire dans quelques années. On rajoutera quelques années de WC. Bon, bah, on est arrivé à.
Sur TF1. Hein,
sur TF1, évidemment. Non,
en prime time avec Archeval. Allez,
sur RTL.
Tout à fait. Donc, on va arriver à 2005. Cette année.
Mais attends, tu sais que, sans rire, hein, dans Attention à la marche. L'émission là de Jean-Luc Reichmann.
Ouais.
Oui.
Il y a eu des questions à midi là. C'était quoi il y a deux mois?
C'est combien de pays avaient participé?
Combien de
à la
pays,
du
pays
du
ont participé
vidéo.
À la Coupe du Monde des jeux vidéo? Combien de tournois la France a gagné sur TF1?
Oui, j'avais vu.
Non, attention la marche. Donc.
C'était un bon
Jean-Luc,
début.
Si tu nous écoutes.
Jean-Luc.
On t'aime.
On t'aime.
Merci.
Je sais pas si c'est lui qui écrit les questions, mais. Bon, donc 2005, c'est la troisième édition de la Coupe de France et de la Coupe du Monde, encore une fois. Alors cette fois-ci, on inverse les lieux. Coupe de France, pardon, dans le Futuroscope, et puis Coupe du Monde au Louvre. Alors qu'est-ce qui a motivé en fait cet échange au tout début?
C'était un
pari.
Est-ce
que c'est tiré au dé? Je sais pas. D'accord.
Même pas comme faire le contraire.
Un souci d'imagination, tu vois.
On a des bandes de de quelques petits trucs comme ça, mais.
Là, c'était pas mal.
Et donc.
Ah bah après on assume.
D'accord. Voilà. Très bien.
Alors ce qui a changé, la volonté de venir dans la capitale pour une question de pour les médias, l'opportunité de le faire au Louvre, un endroit qui nous avait beaucoup plu quand on avait fait la Coupe de France. Et puis on avait envie aussi de faire une Coupe de France. On a eu l'opportunité de la refaire au Futuroscope. Et c'était cosy de la faire sur deux jours, d'avoir l'hôtel. Pour un événement français, c'est quelque chose qui n'avait pas été, qui n'avait pas été fait souvent.
Donc c'était l'occasion de le tenter. Et puis la Coupe du Monde donc, au Carrousel du Louvre. Très grand événement.
Et oui.
Très très suivi. Hein. Enfin, je veux dire, médiatiquement, pour le public, pour les joueurs, ça a été quelque chose de très grand. Donc, encore une fois, quels ont été à chacun votre meilleur et puis votre moins bon moment ?
Moi, le moins bon, c'est facile. C'est quand je me suis fait faire 20 points de suture dans la jambe.
C'est vrai.
En étant
à la
tombé
coupe
sur,
à la Coupe de France.
Sur un bout de verre en jouant au foot. Voilà.
Quel grand sportif, ma foi.
Il y a des fois où on n'a pas de chance.
Foi, voilà. Ouais. Et après, on se demande quoi, il fait des jeux vidéo, tu vois.
Oh, il y avait PES.
Et le meilleur, je sais pas. En fait, là, j'étais tellement dans le guidon que je me suis rendu compte d'absolument rien du tout.
Même sur la Coupe du Monde ?
Surtout sur la Coupe du Monde. C'est vraiment. C'est, on a rien
c'est pas ta journée passée au téléphone avec l'outline de je sais
ah
plus
oui,
quel ISP.
Non, les 9h30 au téléphone avec France Télécom, tu veux parler ?
Oui, voilà.
Merci France Télécom.
Non, mais on a réussi à trouver une solution, mais comme à chaque fois. Hein, mais bon, c'est toujours pareil, quoi. C'est, on passe des heures et des heures, on demande des choses, on les a pas toujours comme on veut, et voilà, quoi. Mais on y arrive.
Moi, mon meilleur souvenir, c'est le générique avant Call SKDK. Le générique qui présente les équipes.
Celui-là, je l'ai pris.
Celui-là, j'étais pas au courant. Alors, comme d'hab, on fait nos trucs.
Personne n'était au courant. Attends,
personne. Il y avait pas beaucoup de monde.
3 secondes avant.
Moi, j'étais pas au courant et je me suis pris une claque énorme. Et comme les 1500 personnes qui étaient dans la salle pour voir la finale, on a frissonné. Ça mettait une ambiance terrible. Ça, c'était vraiment grand.
Ouais, et cette vidéo, elle a une histoire. Hein.
Ouais. Elle a une longue histoire.
Ah, oh là, putain, on a
fait. Elle débarquera un jour.
Ouais. Bah je l'ai, hein, on pourrait la mettre online. Hein,
oui, mais il y a une.
Mais quand on la regarde maintenant, il manque quand même de la finition. Tu vois qu'on la finit quand même à l'arrache. Hein,
ouais. Fini à l'arrache.
Ouais. Le moins bon,
on
le trop bon avant, souvenir, quand même. Peut-être le vendredi du tournoi CS, où comme l'a appelé Midwest, c'était le Crazy Friday, le vendredi de la mort, où il y avait des matchs de fou, et c'est là où je me suis vraiment aperçu que je m'en occupais plus en fait, du tournoi CS, et j'ai loupé pas mal de trucs. Assez grandiose, mais
c'est
bon.
Chialé ce jour-là.
Non, j'ai pas chialé, mais bon.
Il fallait que je fasse signer le chèque par Nvidia.
Il y avait tellement, de trucs sympas, c'est vrai. On aimerait être partout sur ces événements où on peut malheureusement s'occuper que d'une chose à la fois.
Olivier ?
Moi, le plus mauvais souvenir. Disons qu'il y a eu, ouais, l'espèce de le premier jour où il y a eu la pression parce que les bus dans Paris venaient pas, il y avait des joueurs qui manquaient de partout.
C'est vrai.
C'était la panique générale chez tous les orgas de tournoi.
On est parti avec une heure de retard en métro.
Je
et on arrive
en un catalogue de mauvais
souvenirs. Je rectifie. Mais... C'est mon côté géo là pour les bus le jour de la cérémonie d'ouverture. Alors celui-là il était coton.
Mais le buffet était très bon.
Ouais. Je sais pas.
Moi non plus.
Je te confirme.
Je suis jamais arrivé à la cérémonie d'ouverture en fait. Je sais pas, je me suis perdu. Et à la fin, j'ai remboursé. Je crois que je suis revenu au Louvre. Je fais, c'est bon, ça me saoule. Ça, sans déconner.
Dommage.
Non, mais je sais. Pas grave, j'ai vu les photos. Ça avait l'air d'être bon.
Délicieux.
Donc bon, ça c'était le mauvais souvenir. Puis finalement, ça s'est quand même assez bien rangé. On a replanifié une partie des tournois. Enfin, on a su bien s'en tirer. Mais sur le moment, j'avoue que c'était un peu. C'était le premier jour. Là, c'était la panique. Parce que les joueurs n'étaient pas là, quoi. Alors surtout, ce qui était difficile en tant qu'organisateur, enfin, d'un tournoi, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, le joueur est pas là. Jusqu'où on tolère que le match soit pas joué, on met forfait, on met pas forfait. Quand on a beaucoup de joueurs, comment ça se passe ? Enfin, c'était vraiment problématique à ce moment-là dans la plupart des tournois. Et sinon, le meilleur souvenir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a la scène, moi qui m'occupe petit peu plus de la zone presse, j'étais assez finalement content de ce qu'on avait finalement pu faire. Hein.
C'est une grande nouveauté.
Ce qui était une grosse nouveauté. Ça a beaucoup plus donné que ce que je pensais en fait. Je pensais pas du tout qu'on allait arriver avec l'histoire des interviews après les matchs sur scène, que ça allait donner autant, que les gens allaient forcément s'intéresser, qu'au final les journalistes allaient poser des questions. C'est quelque chose d'effectivement nouveau, on savait pas trop à quoi s'attendre et finalement ça a bien fonctionné. Et voilà.
Sylvain.
Je dirais de mon point de vue, il y a la presse forcément, la salle de presse avec les conférences.
Après tous les grands matchs qui se déroulaient, ça c'était vraiment bien de notre côté. Et aussi les murs, les écrans d'image avec les résultats qui étaient presque en temps réel. Ça c'était vraiment bien. Et l'ambiance aussi dans la salle. Donc je me souviens surtout la finale.
Ils étaient en temps réel. C'est toi qui t'es dit
automatique.
Tout était en temps réel.
Et l'ambiance dans la salle de spectacle, surtout pour le match en fait à PES 4, la finale entre le Français Mike et le joueur d'Arabie Saoudite, où les deux fan clubs, on va dire, des deux joueurs se donnaient vraiment comme des malades pour encourager leur joueur.
D'accord. Très bien. Alors justement, on parlait de.
Et moi, mes souvenirs, tu t'en fous?
Bah si, bah non, mais justement, on parlait des
de tous les autres.
J'allais dire, on n'a pas eu ceux de Mathieu.
Non, mais là, je m'en souviens, tu vois, c'est pas encore trop loin. Donc.
Alors meilleur et moins bon souvenir.
Le moins bon, c'est juste parce que physiquement, c'est le moment où ça a été le plus dur. C'était dans la nuit de, enfin, c'était tôt le matin, le mardi, en fait. Faut savoir que nous, quand on monte l'événement, on commence le dimanche soir à accueillir tout ce qui est très lourd. Et puis, en gros, jusqu'à l'ouverture, on s'arrête pas, quoi. Et la journée du mardi, c'est la journée où on a réceptionné des mecs qui venaient de la planète entière, 700 personnes qui arrivaient à Paris. Il fallait qu'on gérait toute la logistique, des hôtels, de la cérémonie d'ouverture. J'avais un discours à faire à la cérémonie d'ouverture et tout ça. Et puis, il fallait surtout.
Très, très bien en anglais, d'ailleurs. On a vraiment senti les progrès, hein.
Merci.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
You're talking to me. Yes.
Et le truc, c'est qu'il fallait qu'on finisse tout, nous, en termes d'installation dans le Louvre, en fait, dans la nuit, quoi. Et ça a été super dur, quoi. La dernière nuit avant l'ouverture, c'est-à-dire, la nuit du mardi au mercredi, le mercredi matin, ça a été très très dur. Surtout qu'on s'est retrouvés, on était plus que trois, quoi. Et il y a 7500 mètres carrés à rendre nickel. Et à l'arrivée, tu vois, à un moment donné, tu peux plus demander aux gens de tenir, quoi. C'est plus possible. Donc vraiment, on était au bout et mercredi, ça commençait, quoi. Donc là, c'était vraiment le plus dur. Et le meilleur moment, ça a été le dernier match Counter sur scène. J'ai eu un gros coup de stress quand on a vu que la salle était bondée, que les pompiers ont commencé à dire on ferme les portes, fini, il y a des gens qui attendaient à l'extérieur, qui voulaient rentrer, et les pompiers qui commencent à me faire un schéma, genre tu vois combien il y a d'air, il y a 4 mètres de haut, tant de mètres cubes d'air, t'as tant de personnes, c'est pour ça qu'il y a une jauge à 1300 personnes, et là il y en avait 1700, et du coup si ça se trouve il y a des gens qui vont tomber dans les pommes, il y a des gens qui fument des clopes, faut vider la salle.
Bon. Ce qui aurait été problématique.
Bah ouais. Et donc là, t'as une grosse montée, quoi. Merde et tout, tu flippes. Et puis c'est le match sur scène, c'est de la finale. Il faut qu'il y ait rien qui plante, quoi. Il faut que tout soit nickel. T'arrives avec la vidéo 5 minutes avant, tu me la montres en backstage, tu vois. Enfin, il y a toute une excitation, tout un enchaînement de choses. Le coaching de l'âme, de Delphine, la remise des prix, tout ça, ça a mis une énorme pression. Le match a été lancé. Je suivais pas du tout le match, quoi. J'étais vraiment trop tendu, et du coup je me suis barré, en fait je suis sorti et j'étais aux Tuileries, et j'étais m'allongé dans l'herbe aux Tuileries pendant 10 minutes pendant la finale, et je suis redescendu après, et là c'était mon meilleur moment.
D'accord. C'était une fois que
ouais.
Et si ça
non parce que c'était plié, parce que c'était plié, ouais, mais ça pleuvait pas, c'est une équipe extraordinaire.
Ok, Grégorio va nous quitter déjà.
Ouais, parce que je veux pas entendre les deux derniers jeux. Donc, je me suis dit, okay. Bon, bah, je vais y aller.
D'accord.
Voilà, j'ai des petites obligations. Merci beaucoup, Rémi. Merci mais beaucoup, Thomas. Merci
prochaine.
Beaucoup, Alexandre. Non.
Non, pas merci.
Pas pour
non, non, pas lui là-bas.
Pas lui.
À demain.
À demain.
À Maya.
Bon, en parlant de jeu.
À la compta.
On en a 4 maintenant. CS 1.6 hommes, CS 1.6 femmes, Quake 4 et Warcraft 3. On va attaquer le cinquième jeu. Qui c'est qui l'annonce?
Moi.
Lequel on dit là?
Ah
bah c'est à vous de voir.
C'est à vous de voir. Hein. Cinquième jeu.
Alors est-ce que vous avez des idées?
Bah moi je sais. Donc,
le problème c'est qu'on sait.
Tout le monde sait en fait. Ici. Non, je sais pas.
Non, tu sais pas.
Non, tu sais pas. Tu sais jamais.
Tu ne sais. Tu ne sais pas, petit.
C'est un jeu qu'on ne t'a pas dit.
C'est le démineur en multiplayer.
J'ai entendu parler qu'il y avait eu du changement.
Alors quel jeu,
tu vois,
est-ce que c'est un jeu qui est sorti récemment?
C'est pas non, est-ce problème. Que c'est un jeu qui a déjà fait une Coupe du Monde?
Ouais.
Ah, ça limite quand même.
Bon, il y en a pas beaucoup hein, déjà qu'on a
fait. Bah oui. Bah, ça limite quand même beaucoup.
À quoi tu penses, Thomas ?
Moi, j'avais vraiment été surpris l'année dernière d'un truc que personne s'attendait. C'était Gran Turismo. C'est bizarre, mais c'est con. Mais c'était parce qu'il y avait des Français en finale et que un peu exténué de ce qu'on avait fait avant.
Il y avait que des Français.
Il y avait que la même famille de Français. Mais surtout, c'est que moi, je me souviens, c'est qu'avant, on avait tourné une preview de vidéo pour la vidéo finale, et c'était, on avait eu un certain Grubby qui est un peu le meilleur joueur du monde à Warcraft 3 et qui avait été pas autiste, mais pas loin. Hein, ça avait duré une demi-heure sa séance de vidéo et c'était horrible. Et donc, je m'étais assis sur la scène et j'avais regardé ça. Et j'avais été surpris de voir comment ça pouvait être visuel, Gran Turismo, même. En fait, c'est comme si on regardait une course de Formule 1 ou de voiture normale, sport automobile, en live, en virtuel, et c'était vraiment sympa, j'avais vraiment apprécié, quoi. L'esprit d'équipe, ils faisaient du 2v2 et tout.
C'est pour toi.
Non, on va pas remettre Gran Turismo, c'est pas possible.
On a remis Gran Turismo.
Ouais, en plus, j'ai pas pu le faire. Ah, c'est ouf.
Ça, c'est vraiment sympa pour Thomas.
Alors, ouais. On a remis Gran Turismo. L'année dernière, Gran Turismo est arrivé par le biais d'un partenariat, on va dire français, lié à la FNAC, à la présence de Sony dans l'événement via la FNAC et le trophée FNAC. Et on a fait, nous, un peu comme on pouvait, les qualifications mondiales. Cette année, on refait Gran Turismo sur PlayStation 2. Mais avec le support mondial de Sony. Voilà.
D'accord. Donc,
l'idée de Gran Turismo, ça va être la même que l'année dernière ou ça va être cette fois-ci avec beaucoup plus de personnes
Les voitures, c'est ça ?
Ouais, parce que l'année dernière, ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, on avait 4 personnes en finale. Genre faire une course avec 20 joueurs. Comme un grand prix.
On va pas donner la formule définitive. Mais je pense pas qu'on fasse des courses avec 20 joueurs. Je pense pas qu'on aille jusque là. Non, mais je peux rien dire. J'ai la réponse à ta question, mais je peux rien dire.
La finale sur les 24 heures du Mans, donc, 24 heures en réel.
Les 24 heures du Mans en réel, donc on commence à le dire, on commence à le dire. on va les voir liquéfier. Non, mais ça serait vraiment.
Non, mais tu sais que le jeu, tu peux jouer à 6 maximum.
Je vais m'arrêter à un tout seul.
Enfin, à l'heure actuelle,
j'ai pas d'amis. Non, mais on peut linker des consoles, je sais pas.
C'est ce qu'on fait,
C'est ce qu'on fait déjà.
Hein. Ouais, mais il y a une limite. Pour l'instant, il y a une limite.
D'accord,
ok.
Mais je ne peux rien dire.
Ça va tout bien.
Il y a une limite à 6, mais il va craquer, tu vas voir. Il va axer la PlayStation. Bon, c'est sur PlayStation 3
en 2005. Sur DS, chez nous.
Vous avez vachement bossé.
Attends, mais des ouf quand même.
En 2005, l'un des gros points noirs, ça a été les bus qui ont en fait été là à cause des hôtels qui étaient assez loin.
C'était pas ça. Hein.
Oui, non, mais non, un des gros points noirs, j'ai pas dit.
Paris, moi, je dirais.
Voilà, à cause de Paris. Et justement, la Coupe du Monde 2006 a été annoncée à nouveau à Paris, au parc Omnisport de Bercy. Alors,
Comment
ça va se passer à Paris cette année?
Alors déjà, Bercy, c'est vachement plus accessible pour des cars que le carrousel du Louvre. Si tu veux, le problème des
c'est
retards,
juste au milieu de Paris,
les trois quarts d'heure de retard des cars à chaque fois, c'était
parce que c'est en plein cœur de Paris.
C'était les derniers 200 mètres, quoi. Donc Bercy, ça va être plus facile. On n'a pas aujourd'hui défini où serait le Players Village.
Village People, en fait.
on ne sait pas, mais forcément qu'il y aura une logistique, ouais, avec des cars le matin, le soir, avec des hôtels.
Bah on le souhaite parce que sinon,
on va tous dormir devant le PO.
On va le gérer pareil, sauf que ce sera plus simple pour les cars d'arriver à Bercy, ça c'est sûr. Voilà. Pour répondre à ta question.
D'accord, donc.
Maintenant, comment ça va être à Bercy? Ça va être fantastique.
Alors, dis-nous en plus.
Dis-nous en plus.
Fais-nous bavé.
Fais-nous rêver.
Alors, attends. Alors, moi, déjà, perso, j'avais déjà été à Bercy. J'avais vu. J'adorais aller au Festival des Arts Martiaux quand j'étais petit. Tu vois, j'ai fait quelques concerts là-bas et tout. Et bon, Bercy, c'est grand.
En chantant ou en spec?
J'ai refait les visites, quoi, pour y aller en me disant, je vais faire mon événement à Bercy, quoi.
C'est vrai.
Et franchement, quand tu rentres dans la salle, tu prends une tarte. Énorme, quoi. C'est énorme. Énorme. C'est grand. C'est. Tu sens que si on réussit ce qu'on veut faire, c'est quand même l'objectif. Hein. Moi, je ne vais pas dire que c'est gagné aujourd'hui. Déjà, il faut le remplir. Ensuite, il faut réussir techniquement l'événement. Donc, tout ça, on se félicitera à la fin. Mais si on réussit, il y aura eu avant et après, quoi. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'on va avoir une exposition visuelle du sport électronique qui va complètement changer la vision qu'en ont les gens, le grand public ou les médias. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça paraît encore confidentiel. Tous les gens qui rentrent dans l'événement, qui rentrent dans la salle et qui voient la scène et qui connaissent pas ce phénomène-là hallucinent complètement. Et moi, je me souviens au Carrousel du Louvre, le midi, j'allais manger les pizzas au resto international en haut et le mec qui me sert les pizzas à midi, il me fait « Ah, bah, vous avez un badge de la Coupe du Monde ?» Putain, j'y suis allé, mais c'est hallucinant, c'est chambé, les matchs sur scène et tout, Counter, tout ça. Le mec, il jouait à Counter tout le temps, il était pas au courant, il savait pas quoi, il savait pas. Donc là, on va tout faire pour que ça se sache, on va tout modéliser en 3D, on va faire des teasers, on va faire une campagne de communication traditionnelle, c'est-à-dire quand tu veux remplir Bercy, tu prends des 4x3 dans le métro, t'as un partenariat fort avec une télévision, on va faire une émission de télé avec les finales qui vont être jouées à Bercy, les implantations qu'on va donner en simulation 3D qui sont faites déjà, mais qu'on donnera dans un prochain communiqué de presse. Donc pas demain, mais dans les semaines qui viennent, vont montrer ce qu'on va faire avant pour que les gens comprennent. Et le cœur de notre installation va tourner autour d'un ring central, c'est-à-dire que les équipes vont être en face à face avec des murs d'images qui vont les surplomber. Et dans chaque plan visuel, dans chaque plan de caméra, il y aura le public derrière. C'est-à-dire que les joueurs vont avoir un contact direct avec le public et seront plus derrière des écrans adossés à un mur ou adossés à une image. C'est-à-dire qu'il va y avoir un chaudron, il va y avoir une chaleur qui va, à mon avis, marquer définitivement l'entrée du sport électronique dans l'entertainment du 21e siècle.
Donc vous gardez une configuration circulaire de Bercy,
ah ouais,
et pas comme les concerts en demi-cercle.
On fait les deux. On fait une scène adossée à un des côtés de Bercy, une scène qui va essentiellement héberger des matchs de duel avec un écran géant qui va faire plus de 250 mètres carrés. C'est-à-dire que l'écran de ESWC 2003, non mais pour vous donner un rapport de cadre,
il faisait 4 quoi par rapport, ça va être un rapport de 4 quasiment.
Il faisait 7 m50 sur quelque chose comme 5 m50. Là, il fait 18 m sur 14 m.
Ouais, c'est le double.
Non mais ça va être monumental. C'est-à-dire qu'il va y avoir une scène centrale pour une scène adossée à un des côtés de Bercy pour les duels et puis des concerts, plein d'animations parce qu'il faut que quand le public rentre dans Bercy, il y a un fil rouge en permanence d'animation. Toutes les zones de jeu vont être accessibles en bas de tribune, c'est-à-dire que tu veux voir un match ECS à un moment donné, tu peux être assis et regarder le match ECS que tu veux sur l'ensemble des matchs, c'est-à-dire c'est fini la zone derrière une barrière, tous les matchs sont accessibles face à des tribunes avec des relais en plasma et au centre la scène Counter-Strike en face à face qui va... Bon, voilà quoi, j'en ai trop dit déjà.
Alors on avait Olivier Sabian qui voulait intervenir.
C'est vrai qu'à Bercy, quand on est tout en haut, on est très loin, on est très haut. Et on est très en retrait par rapport...
C'est très très grand.
Et comment ça va se passer? Comment tu vas réussir en fait à garder le contact humain parce que c'est vrai que quand tu vas à l'ESWC, t'as envie de voir le match, c'est un fait. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui a manqué à la dernière édition.
Tout à fait.
Non seulement on veut voir le match, mais on veut aussi voir le joueur. Moi, j'ai pas envie. Enfin, les écrans géants, c'est bien, mais j'ai aussi envie de voir Poti se lever en disant, t'as vu les chats que je lui ai mis là? Et comment tu vas faire pour que les gens tout en haut...
Je parle pas français, mais
c'est pas vrai. Non, mais il traduit automatiquement.
Comment tu vas faire pour que les gens tout en haut, si tu arrives à remplir à Bercy, puissent avoir ce contact avec les joueurs et avec le match? En dehors des écrans géants.
Ouais, je crois que ce problème-là, il se pose pour tous les événements à Bercy, quoi. Quand t'es tout en haut, est-ce que tu vois bien le chanteur qui chante? Est-ce que tu vois bien le tennisman qui joue en bas? Ce problème-là, il est inhérent à toutes les grandes salles de spectacle monumentales. Donc, j'espère que t'auras la chance de descendre un petit peu plus, d'arriver tôt le matin pour avoir une place en bas.
ou plutôt,
d'arriver tôt le soir, de faire la queue 2 heures avant le matin.
Mais je peux te dire que si t'es tout en haut dans Bercy, ça veut dire que tous les sièges, ils sont pris jusqu'à toi. Et que la sensation que tu vas avoir dans Bercy remplie avec le match CS au centre, je crois que ça va amplement te satisfaire parce que ça va être unique. Mais pour revenir à ce que je disais juste avant, on fait un support d'image, c'est-à-dire que 250 mètres carrés d'écran géant, même quand tu es tout en haut, et que tu verras le visage de Poti, on a une réalisation en caméra qui va être à proximité des joueurs, caméra à l'épaule, donc avec des micros au-dessus de la team, pour à un moment donné se taire et arrêter les commentaires et écouter la façon dont les joueurs se parlent entre eux. Ça va être énorme.
T'as encore d'autres trucs comme ça?
Heureusement qu'il y a communiqué officiel dans 2 semaines, parce que...
Il y a la team derrière qui fait des gestes.
On va la battre.
On lâche rien, on lâche rien.
On sent sur le staff, là, parce que...
Alors, pendant ce temps-là, il y aura des serveuses aussi qui porteront des verres.
Alors, est-ce qu'on aura au premier étage des jeunes femmes, donc en top?
En body.
En body,
en body.
Comme à la... Sans top
de la dignité quand même.
Sympa.
Ah, ceci dit, c'est vrai qu'à Bercy, il y a des filles qui placent sur les sièges. Quand on, enfin, généralement, dans les concerts.
Les ouvreuses, ça s'appelle.
Ouais, quel concert tu vas voir, mais pas tous. Hein.
Moi, je vais... Bah, peut-être.
Bon. Hein. Star Academy.
Voilà, c'est ça. On va passer à la 6e discipline. C'est à qui le tour de l'annoncer, cette sixième discipline?
Vous n'êtes plus que trois.
Vous n'êtes plus que trois, ça
se Ou il y a Sylvain encore, hein, parce que Sylvain n'entend pas beaucoup.
Combien de temps il reste?
9 minutes.
Ça passe donc, vite. Hein.
Eh oui.
Alors, bah, là, il y a un dilemme, quoi. Laquelle on dit en premier? Celle qui va être sujet au plus de discussions, ou l'autre?
Bah, l'autre, et puis on enchaîne juste après, on dit les deux.
Bon, alors, il y en a une, c'est pas tellement un suspense, il y aura Pro Evolution Soccer.
Numéro 5.
Numéro 5. Par contre, je ne peux pas annoncer la plateforme ce soir, je suis désolé.
Alors,
parce qu'il y a toujours la guerre entre consoles, les PC. Parce que c'est un début de saison, c'est ça. C'est les consoles PES qui veulent pas parler avec les joueurs de PC, ou enfin ils veulent jouer ensemble.
Ça se situe pas là. Ça se situe pas au niveau des joueurs qui, de toute façon, quand ils sont champions sur PlayStation, sont champions sur PC. Le souci se situe pas là. Il se situe à des discussions qu'on a avec Konami. À une stratégie de communication de Konami qui possède les droits du jeu, donc qui choisit avec qui ils ont envie de travailler, comment ils ont envie de travailler. Nous, on a choisi Pro Evolution Soccer, c'est un fait. Maintenant, il y a un débat qui est pas clos encore sur comment Pro Evolution Soccer doit s'inscrire dans le SWC, dans le contexte français qui est bien particulier, parce que il y a une très grosse activité communautaire autour de Pro Evolution Soccer en France. Nous, on veut respecter ce schéma-là, on veut respecter Konami. Konami a beaucoup de travail, voilà, on n'est pas au bout des discussions, donc la plateforme est pas annoncée. Voilà.
D'accord. Ce sera annoncé dans quelques semaines ou demain ou...
Oui, ça va être annoncé rapidement.
D'accord.
Oui. Non, c'est juste que je veux pas. Voilà, nous on est correct vis-à-vis d'eux, j'ai pas envie d'aller plus loin. Quoi.
Sachant que Neji Radio donc a une audience mondiale, retransmise sur tous les continents, il faudrait surtout pas prendre ce risque.
Oui, bien sûr, mais beaucoup plus que tu le crois.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr.
Bon, bah, on rappellera quand même l'annonce des dates de l'SWC avec Angel Munoz.
Angel, toujours.
Ne nous avait pas.
Peut-être qu'il écoute là, donc.
Ah bah, il a compris maintenant, il fait
quoi. On va lui dire. Vous lui rappelez quand même que sa CPL passe en plein temps que la Coupe du Monde de football, l'événement le plus suivi à travers le monde.
On l'a
déjà dit.
Il faut lui envoyer un mail.
On
va passer à la 7ème discipline qui va être, je pense, un petit peu la surprise de cette Coupe du Monde 2006, de cette édition 2006.
Une énorme surprise. Enfin, je pense parce que on a essayé de garder le secret.
Il s'agit quand même de Sonic. Et oui, sur Mega Drive 16 bits, c'est pas rien.
Non, c'est pas Blobby Volet.
Linké à 320.
Il s'agit d'un jeu qui gagne à être connu, qui est déjà un jeu qui a eu une super vie en France et en Allemagne, qui a été assez largement distribué. Qui
était un coup de cœur chez nous aussi. Hein.
Ouais, qui était un coup de cœur de notre équipe. Il s'agit de Trackmania. Il s'agit de Trackmania dans un cadre extrêmement particulier, qui est une relation qu'on a avec le studio Nadeo qui fabrique Trackmania et qui a accepté de créer une version spéciale dédiée pour le SWC de Trackmania. Ils sont venus nous voir et nous ont dit voilà, on adore ce que vous faites. Ce jeu-là, c'est un peu le Quake de la course automobile, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a une physique extraordinaire, qui est fait par des joueurs, qui se prête à un modèle de compétition assez facilement. Il y a énormément de ligues autour de Trackmania et on pense qu'il y a un énorme potentiel dans le monde de joueurs autour de ce jeu. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas distribué dans le monde entier, donc on a dit à Nadeo, mais il va falloir faire quelque chose de vraiment spécial, non seulement créer un jeu orienté compétition, c'est-à-dire avec des règles et un gameplay qui se prête et un système de broadcast qui se prête à la compète, mais aussi qui soit gratuit. Et ça, c'est, je sais pas si ça fait écho tout de suite là chez vous, mais un studio qui s'implique dans la création d'un jeu original et gratuit, c'est-à-dire qui va être donné sur Internet pour qu'il soit joué dans le monde entier dans le cadre d'un événement de sport électronique, mais de sport, c'est nous le modèle dont on rêve, c'est-à-dire que finalement, ce qui relève de l'essence même du sport n'appartient à personne. Et cette démarche-là de Nadeo, elle est formidable, et c'est pour ça qu'on a accepté de jouer le jeu avec eux, c'est-à-dire de prendre ce jeu-là alors qu'il n'est pas joué mondialement. On sait qu'il y a un énorme potentiel, ça va être très très fun à regarder, et il va y avoir des vrais champions en finale qui seront pas là par hasard. En plus, autour d'un jeu qui va s'appeler donc Trackmania Nations, c'est-à-dire une nouvelle version de Trackmania après Original, après Sunrise, après Extreme, Trackmania Nations ESWC, autour duquel on intervient en donnant nos conseils de connaisseurs du sport électronique et de la façon dont le système de scoring doit marcher, le système de broadcast doit marcher. Donc on va avoir un très joli bébé qui va sortir en janvier.
Et voilà, c'est la dernière.
Cadeau de Noël.
Ouais.
Ce qui est intéressant avec Trackmania aussi, c'est que pour le grand public, c'est facilement jouable. C'est tout de suite accessible.
Ah ouais, avec
on se met devant le clavier, on appuie sur les quatre touches. Et...
Ouais, ouais, tout à fait. C'est hyper accessible. C'est un jeu très très intelligent, très addictif, et qui quand il est joué par des grands champions, eh ben c'est tout de suite évident à l'écran quoi. Quand il y a une courbe, une trajectoire, une maîtrise de la physique, ça se voit quoi. On est face à un jeu qui porte en lui ce que porte Quake, ce que porte Warcraft dans sa relation à l'intelligence, à la manipulation des unités, ce que porte Counter-Strike dans la cohésion du groupe. Enfin, il y a une vraie essence particulière, il y a une vraie légitimité de Trackmania dans l'univers du sport électronique.
On n'a pas parlé des prize money pour PES ni pour Trackmania, Olivier.
Toujours la même chose, hein, 40 000 dollars pour chacune d'elles.
D'accord, donc ça a été.
Bah, c'est simple, hein. C'est 40 000 dollars pour tous les jeux individuels et 160 000 dollars pour Counter-Strike.
Très bien.
Ce qui fait 400 000 dollars en tout, ce qui fait plus de 50% d'augmentation au niveau de notre budget, ce qui nous aligne sur des standards.
Mais surtout,
qui dépasse même les standards mondiaux.
Mais surtout pour un tournoi où la participation reste gratuite. Enfin, absolument. Une fois qu'on est qualifié.
La participation est gratuite. Ouais. Le voyage est offert. La prise en charge est complète. Enfin, presque complète, on va dire, à part les repas du midi et peut-être du soir, on ne sait pas encore. Donc, ouais, c'est énorme.
On n'a pas beaucoup parlé des qualifications. Donc, très vite, ouais. Quelles seront un petit peu les nouveautés cette année vis-à-vis de l'an passé?
Tu veux dire en France ou au niveau international?
Même au niveau international, les deux.
Bah d'abord en France, parce que la seule chose qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est de savoir où est-ce que sera fait la Coupe de France.
C'est vrai.
Ouais, mais c'est normal, on ne l'a pas dit.
Voilà.
Ça peut être donc une cause du fait qu'on ne sache pas encore.
C'est bien, je suis grave.
Tout à fait.
Non, mais là, on ne peut pas faire toutes les annonces en même temps, tu vois, parce qu'on est obligé de maîtriser un petit peu, tu vois, on distille l'information. Donc,
ça se fait à Melun, parce qu'il est en province, en fait.
Mais c'est chaud comme tu veux. T'as envie d'aller à Melun cette année.
Est-ce qu'on l'annoncera? Je pense qu'on va l'annoncer peut-être dans 15 jours, quelque chose comme ça.
D'accord.
Donc, dans 15 jours, il y a un match. Allez hop.
Au téléphone, il n'y a pas de problème.
Non, mais ou avant Noël ou après Noël, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que on va faire passer les qualifications françaises par Cyber Leagues. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que ce sont les rankings Cyber Leagues qui vont déterminer qui participe aux playoffs, que seront la finale de la Coupe de France. Peut-être pas pour tous les jeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, Gran Turismo, c'est un peu particulier. Il faut organiser les tournois. Tout ça, ça va être annoncé. Ça va faire un bloc d'informations à part entière, soit juste avant Noël, soit après. Au niveau international, on signe des pays qui n'étaient pas présents jusqu'à présent, le Japon notamment, l'Inde avec un énorme groupe qui s'appelle Times of India, qui va faire des opérations monstrueuses en Inde. On a re-signé avec un nouveau partenaire en Chine, qui est associé à la fédération sportive chinoise de sport électronique. On a un partenaire en Corée qui est aidé par le gouvernement coréen, ce qui est nouveau. Ça nous met dans un contexte complètement nouveau sur le marché coréen. On se réengage aux États-Unis avec GGL qui va faire une grande finale au Kodak Theater de Los Angeles, qui va être la première grande finale, on va dire le premier grand événement public de sport électronique, un peu comme ceux qu'on fait en France, mais aux États-Unis.
D'accord.
Donc là, aujourd'hui, il y a 50 pays. Il y en aura entre 50 et 60.
D'accord, encore en attente de quelques pays.
Moi, j'ai une question un peu polémique, on va dire, pour la France. Quid des jeux comme Day of Defeat, où les personnes ont une licence Cyber Leagues, participent à des tournois, et est-ce qu'ils auront leur finale au moins française, ou il n'y a rien de prévu pour Day of Defeat?
Call of Duty ce genre de jeux,
c'est pas une question polémique. Nous, on s'est quand on a rencontré les leaders de ces communautés pour que les jeux arrivent dans Cyber Leagues, on a été transparent dès le début. Cyber Leagues, c'est pas le SWC. Le SWC, c'est pas Cyber Leagues. Le SWC peut se servir de Cyber Leagues, mais l'un n'induit pas l'autre. Et donc la Coupe de France, qui est finalement la finale des sélections pour le SWC, n'est pas le Masters de Cyber Leagues, n'est pas la finale de Cyber Leagues. C'est un supplément, c'est un plus. Et quand aujourd'hui on lance une discipline dans Cyber Leagues, on la lance pas pour le SWC, on la lance pour que la communauté ait un outil structurant, c'est-à-dire et accès au logiciel et accès à un système de classement et accès à tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que, enfin, on est déçu finalement parce que on met à disposition cet outil, on s'engage, on communique sur ces disciplines, et je trouve que il n'y a pas le répondant communautaire, il n'y a pas encore assez de tournois. Alors est-ce que c'est lié au calendrier, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des nouvelles versions du jeu qui sont en train d'arriver et de s'installer, on va voir quoi. Mais moi j'aimerais qu'il y ait à l'issue de CyberLeagues un événement dédié 100% CyberLeagues, c'est sûr. Aujourd'hui on n'a pas les moyens de l'annoncer, je dis pas qu'on va pas chercher les moyens de le faire, mais on peut pas encore l'annoncer. Il y aura un événement qui s'appellera les CyberLeagues Awards, probablement en septembre, et qui récompensera les meilleurs de la saison, qui refera un focus sur les meilleurs de la saison, et là toutes les disciplines seront sur un pied d'égalité. Mais on a jamais caché que les disciplines de CyberLeagues n'étaient pas les disciplines de l'ESWC, hein. Il n'y a pas de lien.
Ok, non, c'était juste des questions que je vois à droite à gauche.
Non, mais c'est très difficile d'organiser des tournois mondiaux déjà en team. On le fait pour Counter-Strike. Tu vois sur le plan logistique ce que ça induit en termes de prize money à répartir pour les joueurs. Tu veux accueillir une équipe d'un pays, c'est plusieurs personnes à faire voyager. Donc on n'a pas les moyens aujourd'hui de dire voilà, le SWC accueille plusieurs jeux en équipe. On aimerait bien le faire, mais c'est très difficile à monter tout ça. On n'a pas les moyens, donc on le fait pour le jeu qui est le plus fort, c'est Counter-Strike. Et pour les autres, pour l'instant, on fait des jeux en individuel. Voilà.
D'accord. Et alors très rapidement, pour terminer, comment se porte CyberLeagues ?
Bah, c'est peut-être Sylvain qui peut en parler.
Sylvain,
si tu veux. Globalement, ça se passe très bien depuis le début de la saison CyberLeagues, que ce soit au niveau du nombre de licenciés qui sont inscrits pour la saison.
On a droit au nombre ou pas ?
Au nombre ?
Ouais.
Oh ben,
oui,
c'est un peu long d'additionner tout, mais on a un bon millier de licenciés là à l'heure actuelle. Majoritairement sur Counter-Strike, bien sûr. Bon, on est très content de la saison de PES qui a ramené beaucoup de joueurs.
Assez
pour
active.
Le moment. Ouais, très active en plus. Et on est content aussi parce que les organisateurs jouent beaucoup de jeux aussi au niveau donc de l'homologation des tournois, et on est sur les mêmes bases de nombre de tournois que la saison passée.
Donc les prévisions sont en bonne voie pour CyberLeagues.
Ouais.
Moi j'avais une question.
Je sais pas, ça doit être un soulagement quelque part.
Moi j'ai une question, c'est que CyberLeagues était là pour fédérer, et on voit qu'il y a des événements qui ne s'inscrivent pas dans CyberLeagues. Et ouais, notamment, je pense cette année à la Gamer Assembly qui est pas inscrit dans la CyberLeagues. Alors peut-être que c'est parce qu'eux ils ont pas voulu s'inscrire cette année ou.
Non, je pense que c'est un problème de calendrier et de timing, d'annonce. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci.
Est-ce que
je les ai rencontrés. Non, mais je ne sais pas si tu étais aux réunions de lancement de CyberLeagues. C'est vrai qu'il y a eu un vrai débat avec les organisateurs de tournois qui, notamment pour les tournois qui n'ont pas besoin de CyberLeagues pour exister ou pour remplir, hein, comme Gamer Assembly, qui trouvaient un peu choquant que la licence CyberLeagues induise nécessairement une réduction sur la participation aux LAN parties qui voulaient être homologuées dans CyberLeagues. Nous, on a essayé de faire la démonstration que tout ça, c'était un cercle vertueux où tout le monde était gagnant, où il n'y avait pas forcément un manque de chiffre d'affaires parce que il y avait des licenciés CyberLeagues qui participaient à un tournoi. On a fait passer le message, on a longuement discuté avec Gamer Assembly, on a essayé de défendre nos arguments, c'est-à-dire de dire que CyberLeagues c'est aussi une exposition, ça valorise aussi un événement comme Gamer Assembly. Je pense que ce message-là est assez bien passé. Il n'y a pas de voilà, moi la dernière fois que j'ai eu Désiré et qu'on en a parlé, il n'y avait plus de débat, et ils étaient d'accord pour jouer le jeu aux yeux de la communauté, et au moins sur une première année voir si ça induisait ou pas un déficit pour eux, ou si ça les empêchait, ou si c'était au détriment d'autre chose à la GA, et auquel cas dans ces cas-là en deuxième année ils prendraient une décision différente. Mais nous on a été complètement transparents. Si on arrive à créer un cercle vertueux et que au final l'organisateur ne soit plus obligé de contribuer à CyberLeagues, mais que le joueur paye entièrement son service, ce qui sera peut-être la réalité en année 2, et ben tout le monde sera content. Là, c'est vrai qu'on demande un effort aux organisateurs. Ça profite à la grande majorité des organisateurs, et les organisateurs qui n'ont plus leur preuve à faire ont un effort supplémentaire à faire. Mais d'une certaine façon, c'est aussi la vocation des associations comme Futuroland d'être les leaders, ou peut-être de donner un peu plus à la communauté parce qu'elles ont plus de moyens ou qu'elles sont plus fortes. C'est une forme de générosité de leur part d'accepter. Voilà, il y a eu un petit débat, mais ils ont accepté.
Et est-ce que, par exemple, pour pas cette saison, peut-être la saison 2 de CyberLeagues, dans la forme adhésion, fédération, est-ce que CyberLeagues aura un droit de regard sur la qualité des événements qui seront licenciés ? C'est-à-dire que, par exemple, une LAN qui est considérée CyberLeagues en premium,
et qui n'apporte pas la qualité d'une LAN premium par rapport à une première série. Ouais. Exactement. Est-ce que Cyber Leagues.
Tu sais que c'est le. Sylvain, c'est son travail de tous les jours, d'être en contact avec ses organisateurs. On essaye de les aider au maximum, de répondre à leurs questions, de fournir des règlements. On évalue leur capacité à réussir ce qu'ils promettent. Parfois, on les reçoit même chez nous et puis on discute avec eux de la réalité de leur dossier ou pas, ou de c'est bien de leur donner leur chance en première, en général ou pas. Enfin, on est vraiment, on veut pas du tout être des arbitres autoritaires. Et si pour X raison un événement se crash ou qu'on a commis une erreur, et ben oui, il y aura d'une certaine façon une remise en question de sa position dans les catégories Cyber Leagues, ça c'est sûr, mais les organisateurs le savent, hein.
Très bien.
D'accord.
Quelque part, c'est enfin
parce que moi je pensais que cette année là on a eu le cas par exemple de l'Electrofox qui s'est pas très très bien passé, et puis une LAN qui a été annulée une semaine avant alors qu'elle était dans les premiers degrés de Cyber League. Non, Central Zone.
Ah pardon, ouais.
Non, Chalane, c'est pas encore.
Elle a été reportée.
Oui, c'était reporté, mais c'est pour un autre cas. Mais ce genre de choses. Est-ce que moi, ce que je pensais, c'était savoir si
tout dépend des raisons.
Affilié pour que le joueur en fait dise, par exemple, c'est une LAN première série. Alors, je sais que c'est tel degré de qualité.
Oui, oui.
Est-ce que vous allez imposer ce genre de choses?
C'est très difficile, et je t'assure qu'il faut plutôt avoir une démarche qui est d'aider les organisateurs plutôt que de les sanctionner. Et personne n'est de mauvaise volonté en France. Quand un mec veut faire un événement, il le fait avec passion, il y met tout ce qu'il a, et je veux dire, on veut pas être là et dire ah bah t'as fait une bêtise, t'es sanctionné. On préfère déjà vachement prévenir ce genre de situation, et si ça arrive, de voir avec l'organisateur quelles sont les raisons, parce qu'il y a toujours un contexte à des problèmes. Et là, si on voit qu'effectivement il y a mauvaise intention, ou alors il y a délibérément des choses qui ont été promises et qui n'ont pas été données aux joueurs, bon bah là, oui, on prendra une décision. Mais sinon, on veut pas du tout apparaître comme une autorité de sanction. Hein. C'est pas l'objet.
Olivier,
ouais, c'était plus sur la catégorie des premières séries. On essaie justement de faire un peu attention quand on a des demandes de tournois, enfin d'organisateurs qui veulent avoir un tournoi homologué général ou première séries. On essaie d'un peu évaluer le dossier en disant voilà qui le fait, qu'est-ce qu'ils ont prévu, comment ils vont le faire, est-ce que globalement le projet a l'air sérieux, est-ce que c'est réaliste. Tous ces critères-là se font avant que nous on homologue. Effectivement, à partir du moment où on homologue, on considère que le projet est viable et c'est censé bien se dérouler. Du coup, c'est effectivement un peu difficile de dire après bon ben le tournoi s'est mal passé, il faudra un peu réévaluer sans doute le prochain tournoi qu'ils feront lorsqu'ils reviendront en disant tiens, on va réorganiser un nouveau tournoi. Là, on verra un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait avant, quels sont les problèmes, pourquoi il y a eu ces problèmes-là. Mais c'est vrai qu'on est plus dans une optique de prévention que de sanction en fait. Si D'accord. on essaye de. Et typiquement, à nouveau, les catégories, on essaie aussi un peu de renseigner les joueurs pour que quand on leur indique effectivement qu'il s'agit d'une première série ou d'une jeune série, que le tournoi est censé bien se dérouler, qu'il y a quand même des critères d'homologation qu'on essaie de mettre en place et de faire respecter pour justement amener assurer une qualité de service vis-à-vis des joueurs. C'est un peu les conditions qu'on a.
Et on parle toujours, il y avait la dernière chose que moi j'ai pour Cyber Leagues, pour la saison 2, on a parlé des Chinois, vous avez dit les Chinois qui ont leur fédération. Est-ce que Game Service tendra un jour à présenter un dossier de fédération française via Cyber Leagues pour faire une homologation complète auprès de la GC Sport pour qu'on ait une reconnaissance
Ça pourrait être le thème d'une émission, hein, parce que là on peut vraiment en parler pendant longtemps. Moi je crois que tout ça c'est aujourd'hui hors de propos. Il faut regarder la réalité des objets qu'on manipule, là. Ce sont des jeux vidéo, c'est des produits commerciaux dont les droits appartiennent à des éditeurs ou à des studios, en fonction de ce qui est signé. Et toutes les tentatives aujourd'hui de dire je suis une fédération vidéo.
Parce qu'en France, on en a 10 000. Hein.
Voilà, il y en a 10 000. Mais en fait, il n'y en a aucune. Quand on parle, ou quand on a. Là, la question que tu poses, c'est est-ce qu'il y a un jour un projet de fédération subventionné par l'État
Une vraie reconnaissance de jeux vidéo, totale.
Voilà. Nous. On n'a pas fait ce choix-là. On a observé ce qui se passait à travers le monde sur tous les nouveaux sports qui ont émergé depuis les années 70, essentiellement. C'est-à-dire tous les nouveaux sports qui ont émergé dans des contextes de marché libre. Il y a d'autres formules qui existent, et je pense que la formule qui est celle vers laquelle le jeu vidéo pourrait aller, c'est une formule de fédération privée où il y a des accords entre des éditeurs et des promoteurs, mais pas une formule de fédération subventionnée par l'État, parce qu'il n'y a aucune raison que la collectivité finance le développement ou d'un produit commercial ou le service autour d'un produit commercial, parce que la réalité aujourd'hui, même du sport électronique, c'est ça, c'est d'une certaine façon du service autour d'un produit qui a été vendu. Donc c'est pas, à mon sens, c'est pas à l'État de financer ça. C'est à une réalité de trouver son propre financement. Donc nous, voilà, on défriche aujourd'hui ce terrain-là, on prend tous les risques en tant que société pour que cet univers existe, et on pense que le modèle, à terme, je ne sais pas quand, ce sera par exemple ESWC qui fédère donc tous les acteurs mondiaux, avec des licences négociées avec les studios ou les éditeurs autour de l'exploitation du jeu en compétition et avec un partage des revenus pour ces éditeurs. Mais c'est pas à la collectivité de financer ça. Par contre, qu'il y ait des associations de joueurs, qu'il y ait une aide du ministère de la Jeunesse, par exemple, autour de d'associations de joueurs, ça c'est quelque chose de très fort et je pense que ça manque aujourd'hui. Mais par contre, imaginez une fédération du jeu vidéo, pour moi aujourd'hui, c'est, et tous les gens qui se proclament fédération du jeu vidéo jouent sur une forme d'imposture. Ils sont la fédération que des entités qui fédèrent, mais ils sont pas la fédération de la collectivité ou du bien public. C'est pas vrai.
Très bien.
Merci.
Qu'on a fait le tour. On a annoncé tout ce qu'il y avait à annoncer dans le communiqué. On n'a rien oublié.
Les dates, ouais, pour ceux qui ne se souviennent pas un petit peu.
Ouais, non, mais...
c'est quand même important de savoir
les
quand
dates,
est-ce que c'est.
Ah bah oui, c'est du 27 juin au 2 juillet.
Voilà, donc c'est plus tôt.
C'est plus tôt, une semaine
plus tôt.
Ouais.
Plutôt, ah ouais.
Et ça se passe donc toujours au Palomnisport.
Au POPB.
Au POPB, oui.
Merci, très bien.
A priori, il y aura de la place pour tout le monde, mais
on espère. On t'a dit, sinon tu nous files des places, on les offre, il n'y a pas de problème.
On fera comme d'habitude, on te mettra devant l'entrée, on fera nos roumains.
S'il te plaît.
Non, mais il y aura une vraie billetterie, quoi. On en parlera quand ce sera d'actualité, mais il y aura une billetterie traditionnelle, comme Bercy fait, avec le billet pour le SWC que vous pourrez aller acheter à la FNAC, quoi. Ça va être marrant, mais c'est ça, quoi. C'est énorme.
Ça promet. On aura l'occasion d'en rediscuter. On te remercie, Mathieu. Bah, et puis,
merci beaucoup à vous. Hein.
On remercie évidemment toutes les personnes de Game Service qui étaient là ce soir. Donc Aurélien, Olivier, Sylvain. Donc on a Grégorio qui nous a quitté, mais bon, il était quand même là. Et puis Adrien qui est excusé. C'est pas grave. Et puis on se donne rendez-vous pour notre part la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Planète G, toujours de 19h à 21h. On prendra les news hein, comme chaque semaine, on ne change pas les bonnes habitudes. Et puis on vous laisse découvrir, on va dire, toutes les informations dans le communiqué de Game Service dès demain. Ça se passe demain.
C'est pas sûr. Hein.
C'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Alors dès dans les prochains jours.
Donc en fait, on est avant que ça.
Demain soir, peut-être vendredi matin, je sais pas.
D'accord. Bon, dans les jours qui viennent, et puis surtout découvrir.
Oui, on va formater toutes ces informations, voilà. On va les distribuer aux médias, mais vous avez eu une exclue mondiale.
Ouais. Ça pour découvrir aussi tous les détails qu'on n'a pas eu encore sur toutes les nouveautés.
Et ça va venir au fur et à mesure.
Voilà, mais je dis, il faut être patient. Je dis juste que ça va débarquer courant décembre, on va dire. Oh, je me fais agresser par un jingle. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a Alex de la régie, il a fait dit.
Ouais, il n'est pas habitué, c'est sa première émission du studio. Hein. Bon, donc merci à vous tous, merci Thomas, merci Raphaël, merci Rémi. Et puis merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Très bonne fin de semaine à tous. Vendredi, Code Zone de 19h à 20h. Lundi prochain, PES Zone, toujours 19h à 20h. Et puis Planet G dans une semaine. Excellente donc fin de semaine à tous. Et à ciao, ciao.
Bye bye.